18h-20h,
Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 18-20 un peu particulier. Nous sommes le 17 novembre et la date du 17 novembre était annoncée depuis des semaines, celle de la manifestation des Gilets jaunes. Ce sera le fil rouge, si j'ose dire, de ces deux heures d'information. Toute la rédaction est mobilisée autour de Fabienne Lemoal et de Sophie Tussaud avec les équipes d'Europe 1 sur le terrain. Nous recevrons Stanislas Guérini, les députés cofondateurs d'En Marche, qui devrait bientôt prendre la tête du parti. C'est un proche du président Macron et nous lui demanderons sa réaction au cri de « Macron démission ». Le mouvement des Gilets jaunes se veut apolitique, mais pourtant certains leaders le soutiennent publiquement, à gauche comme à droite, comme par exemple Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Il sera avec nous à 19h10. On entendra également beaucoup de témoignages de partout en France et aussi les vôtres. Le standard d'Europe 1 vous est ouvert, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 3921, que vous soyez manifestant ou que vous ayez subi les blocages, pour nous faire part de votre ressenti, que vous soyez pour ou contre ce mouvement inédit dans l'histoire de la 5ème République. Au passage, je voudrais tous et toutes vous remercier. Les audiences de cette tranche d'info 18-20h sont en hausse le samedi et le dimanche. Et par rapport à la dernière vague d'il y a deux mois et par rapport à l'an dernier à la même époque. Voilà, c'est dit. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Ce sourire, c'est celui de Marlène. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe. Alors si on veut vous féliciter, on peut le faire aussi sur Twitter.
Oui, on peut le faire sur Twitter. Mais c'est surtout le 39-21 et les réactions aux Gilets jaunes qui nous intéressent ce soir.
Le standard reste ouvert jusqu'à 20h. Merci.
18h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Et le journal vous est présenté par Fabienne Lemoal et vous, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
La mobilisation des Gilets jaunes avec une situation très tendue en fin d'après-midi près de l'Elysée. Des manifestants qui se sont approchés du palais présidentiel. Ils ont été repoussés par les forces de l'ordre jusqu'à la place de la Concorde. Nous serons sur place. Une mobilisation endeuillée aussi par la mort d'une manifestante renversée par une automobiliste en Savoie. Vous entendrez ses collègues Gilets jaunes toujours sous le choc ce soir. Ce sont en tout 244 000 personnes qui ont manifesté à travers toute la France. Chiffre du ministère de l'Intérieur qui parle de 106 blessés, dont 5 dans un état grave. Dans ce journal, nous ferons un point très complet des endroits qui restent encore bloqués. Et puis nous verrons comment on réagit au sommet d'étape. Pour l'instant, c'est plutôt silence radio.
Europe 1.
Et pour commencer, nous allons aux abords de l'Elysée où les Gilets jaunes ont manifesté cet après-midi.
Un rassemblement marqué par une situation très tendue entre les manifestants et les forces de l'ordre. Jean-Jacques Herry, vous êtes sur place. Les Gilets jaunes ont été repoussés par les gardes mobiles vers la rue Royale, puis vers la Concorde où vous vous trouvez actuellement.
Oui, et ici, évidemment, il y a encore des camions de gendarmerie. Les gyrophares sont visibles un peu partout autour de la place dans la nuit parisienne. Mais ça sent la fin de la manifestation. Avec pour les Gilets jaunes l'impression d'avoir su mobiliser, mais l'impression aussi de ne pas avoir été entendu. Même en allant crier leur colère à seulement 300 mètres de l'Elysée, Patrick n'en revient toujours pas.
C'était symbolique, c'était pacifique et on nous a chargé avec les lacrymogènes. Donc voilà, ça prouve encore une fois qu'on n'a pas le droit, on nous écoute pas dans ce pays-là. Et ils chargent pour nous faire dégager.
La charge des gendarmes et les gaz lacrymogènes après un face-à-face avec les gendarmes mobiles, symptomatique selon eux du divorce entre un président loin des réalités et un peuple qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois. Jean-Philippe, retraité, n'était venu que pour défendre son pouvoir d'achat, dit-il.
Les gaz ont été lancés devant l'Elysée alors qu'il n'y avait pas de casse, rien du tout. J'ai vu des petits gosses mettre les mains devant les yeux. Et puis j'ai une prothèse de hanche, donc je viens en vélo. Et croyez-moi, courir avec les gaz derrière, avec une prothèse de hanche, merci encore.
Voilà Fabienne, la place est maintenant en train de se vider progressivement. Plus vraiment de tension ici, juste le même cri qui revient de temps à autre et qui a rythmé toute cette journée. Macron, démission.
Jean-Jacques Herry en direct de la place de la Concorde à Paris.
Direction maintenant la Savoie où la mobilisation a pris une tournure dramatique ce matin.
Une manifestante gilet jaune est morte, renversée par une automobiliste qui a visiblement voulu forcer le passage et qui ensuite a été prise de panique. On retrouve sur place Jean-Luc Boujon et les gilets jaunes qui manifestaient avec elle. Jean-Luc, sont encore sous le choc ce soir.
Oui, absolument. C'est un drame qui les a touchés au cœur parce que Chantal, gilet jaune de 63 ans, était une des leurs. Elle symbolisait ces petits retraités qui ne s'en sortent pas, qui se sentent méprisés depuis des mois par le président de la République. Chantal était par exemple obligée d'avoir un petit boulot à côté pour boucler ses fins de mois. C'est cela qu'elle était venue dire ce matin en prenant part à ce barrage, jusqu'à ce que cette conductrice lui fonce dessus tout à l'heure avec son 4x4. Énorme émotion donc pour ses collègues gilets jaunes et pour son amie Jeanne, à qui nous avons appris son décès tout à l'heure.
C'est pas vrai. Quelle horreur. Je suis sous le coup de l'émotion. Parce qu'en plus, c'était vraiment une femme formidable. Toujours prête à rendre service, toujours en pleine d'entrain. C'était une femme qui était partante, battante. On ne pouvait vraiment que l'aimer, quoi. Surtout qu'elle venait juste, en fait, même de prendre sa retraite. Ça, c'est pas normal. Parce qu'alors, en plus, la personne qui l'a renversée avait forcé le barrage. Je reste encore sous le choc.
Alors des gilets jaunes qui malgré tout ont décidé de continuer leur action, hein, même s'ils ont pensé tout arrêter, explique Charles, l'un des organisateurs.
On s'est regroupés et on s'est tous demandé est-ce qu'on continue. La vie a été, on continue pour cette dame, on a fait une minute de silence, on a essayé de lui rendre hommage comme on pouvait et de la remercier d'avoir essayé de se battre aussi. Les gens justement veulent que cette personne ne soit pas venue pour rien et qu'on puisse arriver à quelque chose.
Alors pour l'heure, la conductrice est toujours en garde à vue à la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin. Elle aurait visiblement donc voulu forcer le passage, ne supportant pas d'attendre alors qu'elle emmenait son fils chez le médecin. Elle aurait expliqué de son côté avoir paniqué lorsque les gilets jaunes ont commencé à taper sur sa voiture. L'enquête le dira, elle ne fait que commencer, mais elle pourra s'appuyer sur des images vidéo puisqu'une caméra est installée juste au-dessus du rond-point dans la zone commerciale où l'accident a eu lieu.
Jean-Luc Beaujon à Pont-de-Beauvoisin en Savoie. Alors ce sont plus de 2000 rassemblements qui ont été recensés à travers tout le pays et sur plusieurs points de blocage, Marguerite Lefebvre, il y a eu des incidents.
Oui, les forces de l'ordre ont dû intervenir à plusieurs reprises toute la journée pour faire revenir le calme dans des cortèges qui menaçaient de dégénérer. Sur le pont de Normandie, dans le tunnel du Mont-Blanc, dans le centre-ville de Dijon, policiers et gendarmes sont intervenus. Un incident a également été signalé à Quimper. Un manifestant a volontairement percuté deux policiers selon la préfecture. Les deux fonctionnaires ont été blessés, le conducteur a été interpellé. À Strasbourg, un motard de la police a été fauché par un véhicule de manifestants. Ce policier souffre de multiples fractures. Il a été hospitalisé. En tout, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 106 personnes ont été blessées depuis le début de la journée. 5 d'entre elles se trouvent dans un état grave. 52 personnes ont été interpellées. 38 sont actuellement en garde à vue.
Est-ce qu'il y a encore des points de blocage ce soir, Marguerite ?
Oui, alors certains blocages ont été levés, mais pas partout. La situation reste très compliquée sur certains axes. La 13 est actuellement coupée au niveau du péage de Buchelet en direction de Rouen. Sur l'A4, la circulation est interrompue entre Jarny et Metz dans les deux sens. Le périphérique de Toulouse est également touché, bloqué au niveau de la Roseraie. Blocage également sur l'A8 au niveau de Fréjus. L'autoroute est bloquée dans les deux sens. Les gilets jaunes sont encore mobilisés. Je vous rappelle ce dernier chiffre du ministère de l'Intérieur. La journée de manifestation a rassemblé 244 000 personnes.
Merci beaucoup Marguerite Lefebvre et vous pouvez retrouver bien sûr la carte de tous ces points de blocage sur europe1.fr.
Alors on le rappelle, ce mouvement du 17 novembre est né de la colère contre la hausse des carburants.
Mais on l'a vu aujourd'hui encore sur différents points de blocage, ce mouvement avait fédéré bien d'autres mécontentements, comme en témoigne le reportage de Charlotte Béchler à Ilkirch dans le Bas-Rhin.
Dans la foule des gilets jaunes, il y a Thierry, un ouvrier. Il appelle les gens à manifester. Il parle d'une petite révolution qui se met en marche. Et ça n'est pas que pour le prix de l'essence.
Ils descendent dans la rue pour déstabiliser le roi. Qui nous taxe, qui nous taxe, qui nous taxe. On nous bouffe la vie. Pas que le prix du carburant, les retraites, les péages, les clopes, tout le reste. Alors moi, je fume plus. Est-ce qu'il faut que j'arrête de rouler ? Toujours quelque chose, quoi. Et ça suffit, quoi. On n'est pas des vaches à lait.
Les retraités strasbourgeois se sont aussi mobilisés. C'est le cas de Nicole et de son amie qui bloquent les rails du tram. Elles veulent se faire entendre, même s'il faut rester dans le froid toute la journée.
On a envie que Macron démissionne, on a envie qu'on change de gouvernement. On en a marre, on en a ras-le-bol, on a des petites retraites. Il nous serre la gorge, là on ne peut plus. Moi je ne peux plus payer, je ne m'en sors plus. C'est pour ça qu'on est dans la rue, les taxes, les taxes, les taxes. Il n'y a jamais quelque chose qui rentre dans notre porte-monnaie, on a toujours à sortir nos sous.
Lisa aussi ne travaille plus depuis peu, elle n'avait plus manifesté depuis mai 68.
Je défends mon pouvoir d'achat parce que j'en ai ras-le-bol d'être taxée. Je devrais aider mes petits-enfants, je ne peux pas. C'est le monde à l'envers, c'est les enfants qui aident maintenant les parents et c'est pas dans l'ordre des choses.
Après avoir bloqué l'entrée de l'A35, les manifestants ont quitté le Baguerzé, direction le centre-ville de Strasbourg. Un cortège d'un millier de personnes les attendait pour une marche solidaire. Ilkirch, Charlotte Béchler, Europe 1.
Et je vous rappelle encore ce chiffre du ministère de l'Intérieur ce soir, 244 000 manifestants à travers toute la France aujourd'hui.
Europe 1.
À suivre, nous allons voir ce que dit l'Élysée de ce mouvement des Gilets jaunes, mouvement endeuillé par la mort d'une manifestante. Ce sera dans un instant.
Il est 18h11, la suite du journal avec vous Fabienne Lemoyle et Philippe Mandel.
On poursuit cette édition spéciale sur la mobilisation des Gilets jaunes et pour l'instant, aucune prise de parole officielle du côté du gouvernement.
Et Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1 nous a rejoint en studio. Bonsoir Jean-Rémy.
Bonsoir Fabienne.
Alors déjà, on l'entendait au début de ce journal, la situation était très tendue aux abords de l'Élysée et plusieurs dizaines de Gilets jaunes étaient encore place de la Concorde il y a quelques instants. Qu'est-ce qu'on en dit justement à l'Élysée que symboliquement les Gilets jaunes soient venus presque manifester sous les fenêtres du président ?
Alors effectivement, c'est un symbole, le quartier de l'Élysée bouclé, mais pas de réaction évidemment officielle du palais présidentiel. En coulisses, on tente évidemment de dédramatiser, de dire que finalement il n'y avait que quelques centaines de personnes, 1200 selon un comptage du ministère de l'Intérieur, et on dénonce en fait le traitement notamment fait par les chaînes de télévision d'information en continu sur cette affaire. 1200 personnes place de la Concorde devient un sujet traité comme une guerre civile, me glissait tout à l'heure un conseiller un peu agacé. Reste qu'effectivement le symbole est là, une foule en colère mais calme et des forces de l'ordre obligées de repousser les manifestants à la nuit tombée.
En tout cas, pour l'instant, Jean-Rémy, ce qui est marquant, c'est qu'il n'y a eu aucune prise de parole officielle à l'exception de communiqués qui viennent du ministère de l'Intérieur pour compter les manifestants.
Et c'est le ministère de l'Intérieur qui est en première ligne sur cette affaire. J'en discutais encore il y a quelques secondes avec un conseiller. Ils ne veulent pas prendre la parole au niveau de l'exécutif, donc à la fois à l'Élysée et Matignon, mais tout le monde a malgré tout observé tout ça avec beaucoup de prudence. Le quasi-silence, à part quelques tweets de ministres qui ont appelé à respecter les consignes de prudence autour des blocages, mais pas de prise de parole. La réalité, c'est qu'effectivement, néanmoins, la situation a été suivie de très très près par l'Élysée, par Matignon. Officiellement, pas de cellule de crise, mais en fait, tout le monde était sur le pont. Après, politiquement, cette manifestation, elle ne change pas l'équilibre politique. L'exécutif a bien compris que le message des Gilets jaunes a dépassé largement la question du carburant, mais comme le répète Emmanuel Macron depuis plusieurs jours, pas question de changer de cap, et c'est encore ce qu'on m'a répété il y a quelques secondes. Il faut comprendre que le président, il est persuadé qu'à force de répéter ses projets, les gens vont finir par y adhérer, sauf qu'évidemment dans tout ça, il y a une forme d'échec dans le mouvement du jour. Les récentes annonces n'ont rien changé, les hausses sur les fiches de paye, tout ça, ça n'a rien changé. 18 mois après son arrivée à l'Élysée, le président ne peut que mesurer à quel point là-dessus il échoue pour rassurer les Français sur leur pouvoir d'achat et aussi un peu sur leur avenir.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Silence radio donc du côté de l'Élysée de Matignon. En revanche, des réactions dans l'opposition. On notera celle de Laurent Wauquiez, le patron des Républicains. Il manifestait au Puy-en-Velay. Il a appelé le président Macron à corriger ses erreurs en annulant les hausses de taxes.
C'était le journal de Fabienne Lemoyle. Merci beaucoup Fabienne.
Europe 1, 18h14.
Et la météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Alors je précise, dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, il y a une alerte orange inondation, donc prudence demain. En Languedoc-Roussillon également à cause de la pluie, mais ce sera calme et ensoleillé sur la moitié nord.
La journée restera assez nuageuse effectivement autour du golfe du Lion. Les pluies seront soutenues sur le Roussillon. Il neigera sur l'est des Pyrénées assez abondamment à partir de 1600-1700 mètres d'altitude. Donc prudence. Partout ailleurs la journée, y compris le sud-est côté Alpes-Maritimes, pluvieux en ce samedi, sera très ensoleillé demain après la dissipation des grisailles du matin. Les températures du matin varieront entre moins 2 et 2 degrés du nord au centre, à l'est de la France. 4 à 8 de la Bretagne au sud-ouest, 7 à 11 près de la Méditerranée. Les maximales se limiteront entre 7 et 12 degrés sur une moitié nord jusqu'à Rhône-Alpes, 12 à 15 sur le sud-ouest et les régions méditerranéennes.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports, c'est avec vous Christophe Lamar. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Philippe.
Et un samedi particulier en raison de la manifestation un peu partout en France des Gilets jaunes, un mouvement qui n'épargne pas le sport Christophe, plusieurs rencontres ont tout simplement été annulées.
Oui, il serait très long d'en faire le décompte précis, mais que ce soit au niveau départemental ou national, plusieurs matchs de football ont été reportés. C'est notamment le cas du Havre et qui devait se déplacer à Abbeville dans la Somme pour le 7e tour de la Coupe de France. La majorité des rencontres de niveau district, c'est-à-dire départemental, de l'Hérault au Morbihan, de la Charente à la Seine-et-Marne ont également été reportés.
En revanche, le test match entre la France et l'Argentine aura bien lieu ce soir à Lille.
Et coup d'envoi à 21h05, aucune raison qu'il ne soit reporté en effet. Le 15 de France de rugby va tout faire pour éviter une sixième défaite consécutive. Deux changements annoncés chez les Bleus par rapport à l'Afrique du Sud. Gaël Ficou au centre et Johan Huget à l'aile font leur retour ou leur apparition. Pour ce dernier, l'Argentine est une nation qui compte. Ce match aura valeur de test.
Bah, si vous prenez les quatre derniers demi-finalistes de la Coupe du Monde, ils sont dans le dernier carré, donc il n'y a pas de surprise. On sait que l'Argentine maintenant elle y est, elle fait partie de ces nations-là, avec des joueurs qui jouent ensemble toute l'année quasiment. Ils participent au Four Nations, qui est un tournoi extrêmement dur. Donc pour nous, il n'y a aucune surprise. On attend l'Argentine avec des joueurs exceptionnels à chaque poste.
Johan Huget au micro d'Axel May, le 15 de France qui pourra prendre exemple ou s'inspirer des filles, puisque les Françaises ont battu la Nouvelle-Zélande, quintuple championne du monde tout de même, 30-27.
C'était le journal des sports. Merci beaucoup Christophe.
Europe 1.
Les Gilets jaunes, on y revient avec Stanislas Guérini, député, cofondateur d'En Marche, qui devrait prendre la tête du parti après le départ de Christophe Castaner pour le ministère de l'Intérieur. Stanislas Guérini est un proche du président, il lui demandera sa réaction au cri de Macron démission juste après ça.
18h20, édition spéciale dans votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec vous Philippe Vandel et votre premier invité.
Bonsoir Stanislas Guérini.
Bonsoir.
Vous êtes député de Paris, cofondateur d'En Marche. On dit de vous que vous devriez prendre la tête du parti après le départ de Christophe Castaner pour le ministère de l'Intérieur. Mais d'abord, l'actualité pure, vous êtes un proche du président. On voudrait savoir comment vous avez vécu cette journée. Où étiez-vous d'abord ?
J'ai démarré dans ma circonscription. Moi, j'ai une circonscription qui est dans Paris. Et puis j'ai voulu aussi aller un peu dans le Grand Paris, dans les Yvelines, pour voir qu'est-ce que c'était ce mouvement. Et puis, je suis avec vous, j'étais dans d'autres médias tout à l'heure, parce que je pense que quand on est élu, quand on est député, il faut pas se planquer. Quand il y a des journées comme ça, des journées de colère, faut l'entendre. Et y compris quand on la prend en pleine poire.
Déjà, la première information, avant de parler de la poire, c'est que vous avez pu circuler.
Oui, et je pense que ceux qui participaient à cette journée-là, ils n'avaient pas envie de bloquer le pays. Peut-être qu'il y en avait qui avaient envie de le faire, mais pour la plupart, moi je le prends comme une colère qu'on peut entendre, comme un mouvement qui peut être légitime aussi.
Ça allait être ma question, comment comprenez-vous cette colère ?
Je pense qu'elle vient de loin d'abord. On passe à côté du sujet si on croit qu'on parle que du carburant. C'est le sujet, à mon avis, de la mobilité dans notre société. Ce que le président de la République dénonçait en disant qu'il y a des gens qui se sentent assignés à résidence. Je crois que c'est ça le sujet. C'est le sentiment qui est partagé, et j'en vois dans ma circonscription des gens qui viennent me dire ça en me disant non seulement vous, les politiques, les dirigeants, et ça depuis des années, vous nous faites subir des choses, mais on n'a pas le sentiment que ça va aller mieux pour nos enfants.
Il y a un sondage Odoxa Dentsu Consulting, publié hier par le Figaro et France Info, qui disait que 74% des sondés, ce qui est énorme, trouvaient justifié le mouvement des Gilets jaunes. Et vous ?
Moi, je ne crois pas au blocage. Je ne crois pas qu'il faille dire aujourd'hui on doit perdre la cohérence de ce qu'on est en train de faire, on ne doit pas faire la taxation carbone. Je crois en revanche qu'on doit aux personnes qui sont en colère aujourd'hui des solutions, pas de la démagogie. Pas ceux qui disaient hier la larme à l'œil à Nicolas Hulot est parti, dans les colloques il faut faire la taxe carbone, et puis au moment où on l'a fait, là il y a un silence assourdissant, y compris de certains écologistes qui sont sincèrement des écologistes en peau de lapin. Il faut assumer
ce qu'on
fait.
À qui pensez-vous ?
Je pense à tous ceux qui aujourd'hui remettent en cause ce qu'ils ont eux-mêmes lancé. J'entendais Ségolène Royal il y a quelque temps, mais c'est proprement assourdissant d'entendre ça. Donc moi je suis aussi en colère d'une certaine façon, parce que je crois que notre responsabilité à nous dirigeants, ceux à qui les Français ont fait confiance, c'est de trouver des solutions pour sortir de cette situation. On est complètement bloqué dans un système du tout pétrole qui fait que c'est l'Arabie Saoudite qui décide le prix de l'essence qu'on va payer à la pompe.
Ça c'est pour une partie, et puis ensuite il y a les taxes, c'est un autre sujet justement. Les taxes, on sait bien que c'est pas l'Arabie Saoudite qui les met, ni sur l'essence ni sur le diesel.
33 centimes de hausse, pour ça a baissé depuis. Sur l'essence, les taxes dans cette hausse c'était 3 centimes. 3 centimes sur 33. Pour le diesel, 7 centimes sur 33.
Oui, mais c'est très bien ce que ressentent les gens d'en bas. Ce que ressentent les gens d'en bas, c'est qu'ils ont envie d'être aidés par le gouvernement, et que si le brut monte, si le pétrole monte, il faudrait au contraire que la TIPP qui est flottante, ou sur laquelle on peut avoir une action, descende pour compenser.
Oui, mais ces taxes-là, elles financent aussi la vie de notre pays, la vie des collectivités. Et donc moi, je veux pas qu'on ait, comme parfois j'entends nos oppositions. Vous savez, le lundi, on a l'impression qu'ils vont supprimer 500 000 fonctionnaires d'un trait de crayon. Le mardi, ils nous disent « Ah, les services publics, ça disparaît en ruralité ». Le mercredi, une petite larme pour Nicolas Hulot. Et le jeudi, ils nous disent « Bon, on va faire un chèque carburant et on va donner deux fois le ministère de la Justice, le budget du ministère de la Justice, aux pétroliers ». C'est insupportable.
Vous savez ce que vous dites là, Stanislas Guérini, c'est également un des motifs d'exaspération des gens qui disent que la transition écologique est la bonde eau, et qu'en fait ces taxes ne servent pas à vivre dans un air moins pollué, mais à rembourser les finances publiques.
Merci pour votre question, parce que je pense que c'est ça la bonne question. Et moi je vais essayer d'expliquer ce qu'on fait. Ce qu'on veut faire,
c'est moins taxer le travail, moins taxer les Français.
Ça, le président l'a dit.
C'est ce qu'on fait quand on baisse la taxe d'habitation, c'est ce qu'on fait quand on augmente la prime d'activité, quand on enlève les cotisations sur les heures sup.
Oui, mais la taxe carbone, ça part du carbone, pardon.
Oui, bien sûr.
Moins taxer le travail. Sinon, elle s'appellerait la taxe hôpital ou la taxe route.
Moins taxer les Français et plus taxer les activités polluantes. C'est comme ça qu'il faut qu'on engage la transition vers à la fois une sortie d'un système qui nous enferme dans un système polluant. Je veux dire, beaucoup de personnes ont des enfants qui sont asthmatiques. On peut comprendre que les particules fines, qu'un système qui repose sur les énergies fossiles, c'est un système qui est fini. Et puis, c'est aussi une impasse économique. Parce que, je le disais tout à l'heure, on sera sans cesse dépendant de l'augmentation du prix du baril de pétrole qui ne va pas, objectivement, il faut le dire à nos concitoyens, diminuer. Donc, il faut faire ça. Ça, c'est la cohérence de long terme. Et il faut accompagner nos concitoyens.
Alors justement, mercredi en direct sur TF1, en parlant d'accompagnement, le président de la République avait fait ce regret. Il a dit « Je n'ai pas réconcilié le peuple français avec ses dirigeants. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ?
Parfaitement d'accord. Et je crois que vous parliez tout à l'heure du mouvement de La République En Marche. Je crois que notre devoir, c'est d'incarner cette parole présidentielle, de dire aux gens qu'on a besoin d'eux. Sur les défis qui sont devant nous, on essaye de prendre les bonnes décisions, les décisions qui emmènent le pays dans la bonne direction, mais on n'y arrivera pas si on n'engage pas les gens dans ces réformes-là.
C'est quoi ? C'est un défaut de communication ? On a vu des pancartes dans la manifestation, Macron coupé du peuple.
Mais ce cri-là, c'est un cri contre les dirigeants français. C'est un cri de ceux qui subissent contre leurs élites et cette trahison des élites, d'avoir voulu pendant tellement d'années prendre des décisions qui parfois font plaisir à court terme, mais n'engagent aucune cohérence politique. Nous, on essaie de faire quelque chose qui est différent. Alors, c'est pas facile. Il faut le dire, on est dans un moment de difficulté politique. C'est pas facile, mais je crois qu'il faut avoir la sincérité de dire que c'est la bonne direction pour le pays. Et le pire des choix, ça serait de perdre la cohérence de cette politique-là.
Vous faites partie des députés... Est-ce que vous faites partie des députés de terrain qui avaient alerter l'exécutif d'un malaise dans la France profonde? Je dis ça en même temps, vous êtes député de Paris, vous n'êtes pas non plus dans les campagnes ou les zones périurbaines.
Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet.
C'est peut-être pas le sujet, mais c'était ma question. Oui. Est-ce que vous aviez été alerté par les concitoyens?
Je crois que c'est pas ça le sujet. Moi, dans ma circonscription, il y a des quartiers qui sont des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Je peux vous dire que les difficultés, elles y sont aussi totalement concentrées. Je vais pas vous dire que j'avais vu venir, entre guillemets, le mouvement des Gilets jaunes. Il y a une part de spontanéité là-dedans. Entendre la colère, ça oui.
Dernière question, vous êtes un proche du chef de l'État. Est-ce que vous lui avez parlé aujourd'hui?
Non.
Est-ce que vous savez où il se trouve?
Non, mais je n'ai pas cherché à avoir cette information.
Lorsqu'une rumeur a prétendu qu'il avait été exfiltré de l'Elysée, je voulais juste avoir cette information.
Je n'ai aucune idée et je ne suis absolument pas capable de vous donner, mais attention, méfions-nous des rumeurs.
C'était qu'une rumeur, c'est pour ça que je l'ai dit comme telle.
Tout à fait.
Merci beaucoup Stanislas Guérini, je rappelle que vous êtes député La République En Marche et cofondateur du mouvement En Marche.
Il est exactement 18h30, vous écoutez votre grand journal du soir et Philippe Vandel.
Et le rappel des titres, c'est maintenant, c'est avec Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Mobilisation massive des Gilets jaunes, 244 000 personnes ont protesté aujourd'hui à travers le pays contre la hausse des prix du carburant. Chiffre dévoilé ce soir par le ministère de l'Intérieur. La journée a été marquée par de graves incidents. Une femme a été tuée en Savoie par une automobiliste qui a foncé dans un groupe de manifestants qui tapaient sur sa voiture. 106 personnes ont été blessées à travers le pays, dont 5 gravement. 52 autres ont été interpellées, 38 d'entre elles placées en garde à vue. Ce soir, la mobilisation se poursuit, notamment aux abords des Champs-Élysées à Paris, où la situation est tendue. Des centaines de gilets jaunes ont envahi cet après-midi l'avenue, avec pour objectif de rejoindre le palais de l'Élysée et crier leur colère sous les fenêtres d'Emmanuel Macron. 1200 personnes sont également rassemblées place de la Concorde. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.
Merci Sophie, à tout à l'heure, 19h.
Europe 1.
La météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Soleil demain partout, sauf dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, qui sont placées en alerte orange inondation.
Tout à fait, du nord de l'Aquitaine aux côtes de la Manche, en passant par le bassin parisien et des Hauts-de-France au Grand Est, en descendant vers le Massif central, Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, grand soleil annoncé. Prudence, en revanche, si vous habitez en Roussillon, car vous avez affaire à de nouvelles intempéries, fortes pluies en plaine et intense chute de neige au-dessus de 1700 mètres d'altitude sur les Pyrénées-Orientales. Les températures sont en baisse, tout doucement, tranquillement, le matin entre moins 2 à 9 heures ou encore Épinal et 10 degrés à Perpignan et Toulon, et l'après-midi entre 6 à Belfort et 16 degrés à Marseille.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Il est 18h32, vous êtes bien sur Europe 1 et votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Philippe Vandel. Édition spéciale Gilets jaunes. Pensez-vous que cette mobilisation était justifiée? Souhaitez-vous soutenir ce mouvement? Êtes-vous pour ou contre, en colère? Bref, vous avez la possibilité de passer en direct à l'antenne, 39,21, 50 centimes d'euros la minute. Et vos commentaires, vos photos, vos vidéos sur cette journée sont bien évidemment les bienvenus sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Bonsoir Laetitia Deval.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de Bloquons Tout, collectif 95 Val-d'Oise. Tout d'abord, c'est quoi ce collectif ?
Eh bien, ce collectif, c'est un ensemble de Val-d'Oisiens, principalement issus du nord du Val-d'Oise, mais également un petit peu du Vexin, limitrophes à l'Oise ou un petit peu des Yvelines, en fonction des points de ralliement les plus simples pour chacun. Et voilà, géographiquement, ce que nous touchons.
Alors, comment s'est déroulée votre journée ? En quoi a consisté votre action ?
Alors nous, on est parti de, on s'est donné rendez-vous sur un parking dans un centre commercial. Nous avons ensuite intégré l'autoroute à proximité, c'est-à-dire la 15, en opération escargot, et nous avons bloqué toutes les stations essence que nous avons trouvées sur notre chemin. D'abord dans le sens Paris-Province, puis dans le sens Province-Paris. Et ensuite, nous avons fait une opération escargot au niveau de Herblay, la Patois et Montigny.
Comment votre action a été perçue par la population, par les gens alentour ?
Écoutez, dans l'ensemble, beaucoup de klaxons de soutien. Donc ouais. Voilà, ça fait plaisir.
Même à l'arrêt ?
Nous n'avons pas fait d'opération blocage à part les stations. Donc nous n'avons pas en soi gêné nos citoyens, nos concitoyens qui avaient besoin de se déplacer. Et pour les opérations escargot, bon, il y a toujours quelques personnes un peu plus pressés qui ont essayé de passer en poussant sur les bandes d'arrêt d'urgence. Donc là, nous remercions les forces de l'ordre qui ont été très présentes à nos côtés, avec lesquelles nous avons tous bien collaboré, autant dans un sens que dans l'autre, et qui du coup ont bien sécurisé nos interventions.
Est-ce que vous avez fait de nouveaux adeptes, puisqu'on a vu que 74% des Français se disaient favorables aux Gilets jaunes? Est-ce que vous avez recruté?
Est-ce qu'on a recruté? Bah, disons qu'on a des personnes qui n'étaient pas prévues et qui sont arrivées en cours de route. Donc on peut dire que oui, dans un sens, on a recruté.
Vous dites en cours de route, la nuit est tombée. Que va-t-il se passer ce soir?
Eh ben, en ce qui nous concerne, nous allons être plus d'une dizaine à aller sur un parking, passer la nuit pour continuer notre présence, notre occupation des lieux et montrer que nous sommes là, toujours aussi déterminés. Et demain matin, rendez-vous du collectif pour ceux qui sont rentrés chez eux ou pour ceux qui nous rejoindront en plus au centre Art de Vivre à Erani pour continuer nos opérations.
Et le mouvement peut continuer combien de temps? Qu'est-ce que vous avez prévu pour la semaine, si tant est que vous ayez prévu quelque chose?
Alors pour la semaine, je vous avouerai que nous attendrons impatiemment le soutien des professionnels tels que les ambulanciers, les poids lourds, les forains, afin de prendre un petit peu le relais et que nous puissions nous aller travailler parce que nous avons besoin malheureusement
vous
de
avez un métier.
Notre salaire.
Vous faites quoi dans la vie, Laetitia Deval ?
Je suis entrepreneur.
D'accord. Dans quel domaine ?
Prestation de services en gestion commerciale et administrative auprès des professionnels et associations. En gros, je fais des factures pour les professionnels, des relances, des devis, etc. Et pour les associations, je fais tout ce qui concerne l'administratif, ça va de ressources humaines, la comptabilité, les budgets, etc.
Ce qui me frappe dans votre réponse, c'est que vous me dites ce que vous attendez d'autres professions, comme les routiers, comme les ambulanciers, comme les forains, mais vous ne me dites pas ce que vous attendez du gouvernement. Qu'est-ce que
vous ne m'avez pas demandé ce que j'ai fait du gouvernement non plus.
Non, mais vous auriez pu me dire, si le gouvernement cède, on rentre tous à la maison. Vous ne l'avez pas dit.
Non, je ne l'ai pas dit parce que pour l'instant, on n'a aucune réelle proposition concrète. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, on est toujours entendu, mais toujours ni écouté, ni compris. Donc, ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'enfin soient taxées les personnes qui doivent l'être, à savoir les hauts revenus, à savoir les GAFA, à savoir ceux qui ont un réel pouvoir d'achat qui ne cesse d'augmenter, les entreprises qui sont boursières ou qui ont financé M. Macron pour sa campagne, et qu'on arrête de toujours tacler sur ceux qui ont déjà des problèmes à finir la fin de mois.
D'accord. D'un mot, est-ce que vous avez été contrôlé ou inquiété par la police ? Est-ce que vous avez été contrôlé ou inquiété par la police ?
Absolument pas. Alors, contrôlé, non. Inquiété, non plus. Encadré, oui. Sécurisé, oui. Ils ont été avec nous sur tout notre parcours. Ceux qui nous ont aidés à serrer comme il fallait sur les voies. Non, on a travaillé en bonne intelligence, en bonne collaboration. Je pense autant d'un côté que de l'autre, puisqu'ils sont encore avec nous ce soir et que tout est convivial et bon enfant. Donc, en ce qui nous concerne, tout va bien. Le policier ou le gendarme ou le CRS reste un citoyen à part entière et il le sait et nous et il le voit à travers notre regard. Donc tout passe bien.
Merci beaucoup, Lycia de Wall. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Bloquons Tout, collectif 95 Val d'Oise. Pardon. Peut-être moins bon enfant. Bonsoir, Philippe Juban.
Bonsoir.
Vous êtes à la tête d'un garage à Fougères, c'est en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. On vous a vu au 13h au JT de France 2. Vous êtes arrivé ce matin à 8h à votre garage. Que s'est-il passé ensuite ?
Eh bien, il s'est passé tout simplement qu'on a interdit l'accès à mon parking, puisque le blocage concernait essentiellement le carrefour sur lequel je travaille, puisque je suis directement en galerie marchande d'un carrefour.
Ouais.
Et donc, impossibilité de rentrer avec les véhicules. Et bon, c'est pas encore le problème. Le problème, c'était que ma clientèle ne pouvait pas arriver jusqu'à chez moi. Donc, pour quelqu'un qui répare des voitures, c'est forcément compliqué de pas les laisser passer.
Mmh.
Voilà, il y a eu un petit peu de dégradation. Ils ont utilisé du mobilier de mon parking pour pouvoir bloquer l'entrée principale. Et ça s'est un petit peu envenimé gentiment, mais bon, c'était un petit peu compliqué dans le sens où la négociation pour pouvoir débloquer le parking, au moins pour me donner l'accès à mon centre, était impossible.
Ouais.
Donc voilà, tout
vous
simplement.
Vous avez combien d'employés ?
J'ai 13 employés.
Et comment ça s'est passé avec eux ?
Eh ben, tout simplement, j'en ai 5 qui sont arrivés ce matin, donc qui ont réussi à passer les barrages qu'il y avait aux alentours. C'était pas encore trop bloqué à 8h ce matin, enfin 8h, 8h30. Et puis je les ai tout simplement renvoyés chez eux, puisque c'était pas la peine de rester pour ne pas travailler ce matin. Donc j'en ai gardé 2 avec moi pour faire 2 véhicules qu'on avait eu la veille.
Ouais.
Les clients sont venus les récupérer à 10h et puis on a fermé la boutique à 11h30.
D'accord. Question que se posent nos auditeurs à Europe. Est-ce que dans ce cas-là, les employés sont payés ?
Eh bien écoutez, j'ai pas toutes les informations. J'aurai plus d'informations lundi. Mais logiquement, on m'a demandé, ma hiérarchie m'a demandé de leur poser une journée de congé. Mais je suis pas persuadé que ce soit dans les règles.
En dehors,
j'en serai plus lundi.
En dehors de la mésaventure qui est la vôtre, Philippe Juban, que pensez-vous de l'action des Gilets jaunes ?
Mais moi, je le dis ce matin, je partage. De toute façon, le ras-le-bol, il est là. Le ras-le-bol, j'en suis conscient et j'en fais partie aussi. Il y a un ras-le-bol général. Mais bon, sur les façons de faire, je pense qu'il y a quelques petites choses. Faire attention à ce qu'on fait. On a bloqué l'économie aujourd'hui. On a empêché des gens de travailler. C'est pas forcément la bonne solution. Pour Carrefour, il était possible de bloquer la station-service, puisque c'est ça qu'ils voulaient faire au départ. Maintenant, de bloquer la galerie marchande, bloquer les gens qui travaillent à côté, c'était pas forcément la solution.
Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, Philippe Juban. Je rappelle que vous êtes à la tête d'un garage à Fougères, en Ille-et-Vilaine. Je suppose que vous êtes fermé demain, mais vous serez ouvert lundi.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci. Bonne fin de journée.
Merci à vous. Dans un instant, nous serons avec Sébastien Martineau. Il est secrétaire général de la CGT dans le Cher. C'est assez rare pour être signalé. Dans ce département, la CGT a organisé une manifestation à côté de celle des Gilets jaunes, mais sans Gilets jaunes. Pourquoi ? Comment ? Il nous dira.
18h42, Europe 1 est en édition spéciale jusqu'à 20h en raison de la manifestation des Gilets jaunes qui s'est déroulée aujourd'hui. Nous sommes avec Philippe Vandel, ses invités, les auditeurs, bien sûr, ont la parole. Alors, les témoignages ont fleuri sur la toile aujourd'hui. Continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et puis le standard d'Europe 1 vous est ouvert également, le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Que vous soyez manifestant ou que vous ayez subi les blocages, n'hésitez pas à nous faire part de votre ressenti.
Bonsoir Sébastien Martineau.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général de la CGT dans le département du Cher. Et c'est assez rare, je le disais, pour être signalé. Dans votre département, la CGT a organisé une manifestation à côté de celle des Gilets jaunes. C'est-à-dire que vous étiez avec des Gilets jaunes, mais sans le gilet. Pour quelle raison ?
Alors, on avait nos gilets CGT, hein. Donc ils étaient jaunes. Pour quelle raison ? Parce que nous, on estime que la colère est légitime. On a des salariés, des retraités, des chômeurs qui sont dans une situation telle que les salaires n'ont pas augmenté depuis des années. Donc nous, notre revendication première, c'était l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux. Voilà notre fil rouge et qui va continuer dans le temps puisqu'on a décidé d'une action contre la vie chère et contre le coût de la vie.
Sébastien Martineau, vous dites nous, on estime que notre colère est légitime, mais nous, la CGT, ne parle pas d'une seule voix ce matin. Le premier secrétaire, Philippe Martinez, était l'invité d'Europe 1. Il expliquait pourquoi il se désolidarisait du mouvement des Gilets jaunes. Il disait la colère est légitime, mais il disait qu'il refusait de se mélanger avec certains qui ont de mauvaises intentions. On pense évidemment à Marine Le Pen ou à Nicolas Dupont-Aignan ou à Jean-Luc Mélenchon. Que lui répondez-vous ?
Alors, moi, je réponds pas à Philippe Martinez, puisque j'étais avec lui, encore une fois, 2 jours cette semaine. On a longuement discuté au niveau national de ce que pouvait faire la CGT, de ce que devait faire la CGT. Au niveau national, la CGT est très attentive à ce qui se passe, elle est très soucieuse de ce qui se passe. Nous, on avait pris par contre les devants en disant, voilà, cette colère est légitime, nous serons avec les gens en colère. Nous sommes les gens, avec les gens en colère, mais pas avec les partis politiques qui récupèrent les choses. Nous, on n'a aucune récupération là-dedans, ça fait des années qu'on revendique les augmentations de salaire et l'augmentation des prix.
Pardonnez-moi, je suis bien conscient de ce que vous dites. Ça fait longtemps que la CGT, même des décennies que la CGT proteste. Mais quand même, avoir choisi le 17 novembre, pardon, c'est de la récupération. Vous auriez pu choisir une autre date.
On a fait des journées d'action sur l'augmentation des salaires. Depuis des années, la CGT revendique l'augmentation des salaires.
Mais pourquoi vous calez le 17, pourquoi pas le 16 ou le 19 ou le 21?
Et pourquoi nous on serait pas dans l'action cette journée-là? Voilà, la question est là. C'est
je ne vous le reproche pas. Je réponds juste au reproche de récupération.
Ah ben, la récupération, c'est pas nous qui la faisons. On est légitime par rapport à ça. De quand le Front National ou les Républicains proposent des augmentations de salaire? Moi, je pose la question. Voilà. Donc nous, notre place, elle était tout à fait dans la manifestation. On a discuté on a distribué des tracts et on a discuté avec les gens. On a eu un très 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 bon accueil sur l'augmentation des salaires, pensions et minima sociaux. Donc nous, ce qu'on propose, c'est que d'une colère, on en fasse une mobilisation. Voilà, c'est notre revendication première.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1 est avec nous dans ce studio. Est-ce que l'ampleur du mouvement, 240 000 manifestants, combien même ce n'est pas une manifestation de la CGT et des syndicats tels qu'ils sont constitués, est-ce que c'est une surprise pour le pouvoir? Est-ce que c'est un gros chiffre, un petit chiffre?
Non, le pouvoir, effectivement, à tous ceux à qui j'ai pu parler ce soir, considère que l'affluence était en deçà des promesses à la fois des sondages, de la presse et des réseaux sociaux. Néanmoins, personne ce soir ne fait de triomphalisme à la fois dans les couloirs de l'Élysée ni dans les couloirs de Matignon, notamment parce qu'il y a une victime ce matin, et ça marque beaucoup les esprits. Pour de nombreux responsables politiques, c'est un échec, mais néanmoins, politiquement, il n'y a pas de raison de changer de stratégie, puisque voilà, pour eux, l'ampleur n'est pas si massive que ça.
Pardon de dire ça, mais ils auraient pu également être cyniques et se servir de ce drame pour délégitimer le mouvement.
Ça n'est pas le cas ce soir, en tout cas.
Quelle réaction? Il n'y a pas de réaction de l'exécutif, sinon pas de réaction officielle.
Aucune réaction officielle. À chaque fois, l'Élysée et Matignon relancent vers le ministère de l'Intérieur, vers Christophe Castaner, qui, d'une certaine manière, se borne à donner des chiffres sur la mobilisation. Mais ce qui est certain, c'est qu'en coulisses, on nous explique qu'il faut être plus efficace, plus à l'écoute, que les Français voient les réalités des réformes dans leur vie quotidienne. Mais très clairement, pas de changement de cap, il n'y aura pas de différence.
Sébastien Martineau, je reviens à votre manifestation dans le Cher. Vous manifestiez à côté des Gilets jaunes, et vous-même en étant de la CGT. Comment s'est passée, si j'ose dire, la cohabitation?
Alors, on n'était pas à côté des Gilets jaunes, on avait choisi un lieu qui n'était pas occupé par les Gilets jaunes, justement. Pour, faut savoir quand même que, d'une manière générale et nationale, les syndicalistes et les politiques n'étaient pas conviés, surtout pas les bienvenus.
Oui.
Donc, pour parler à la provocation, parce que dans ces rassemblements, vous avez quoi? Vous avez des salariés, des retraités, mais vous avez aussi des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs. Vous avez le patronat, vous avez le Front National. Oui, certes. Donc, moi, j'ai vu tout à l'heure, là, j'ai voulu faire des courses, j'ai pas pu le faire, et je suis tombé sur des gens qui étaient complètement hostiles à la CGT. Donc, moi, d'une manière générale, on a fait notre initiative en soutien à la colère, et qui est légitime, encore une fois, une colère légitime. Et de la colère, il faut passer à la mobilisation. Et la mobilisation se fera dans les entreprises. Nous, on propose de bloquer l'économie à un moment ou à un autre, puisque ce gouvernement reculera pas, il reculera sur rien, pas plus aujourd'hui qu'hier. Vous allez avoir la réforme des retraites, alors comment on fait? Voilà, donc... Nous, ce qu'on dit, c'est d'une colère légitime, il faut en faire une mobilisation de masse.
Merci.
Et la mobilisation de masse se fera avec les salariés.
Merci beaucoup, Sébastien Martineau. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CGT dans le département du Cher. Et puis savoir si le gouvernement peut faire marche arrière pour calmer la colère, on va en parler tout à l'heure avec Jean-Rémy Baudeau et pas seulement.
18h51, suite de notre édition spéciale dans votre grand journal du soir. Jusqu'à 20h, vous pouvez intervenir en direct à l'antenne en composant le 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Donc si vous avez peut-être envie de faire le bilan, hein, on arrive. Va à 18h51, oui, c'est la fin de la journée, c'est la fin de cette manifestation Gilets jaunes. Et on va retrouver Philippe Vandel avec un nouvel invité.
Oui, mais ce n'est pas la fin de l'émission, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Jérôme Darc.
Bonsoir Monsieur Vandel.
Vous êtes maire d'Hiverdroit de Morbecque, c'est dans le Nord. Combien d'habitants?
2700.
L'image de votre mairie a fait le tour de France. Vous avez affiché un immense gilet jaune sur la façade de la mairie. Pour quelle raison? Que vouliez-vous dire?
Je voulais en fait exprimer la colère que je ressens vis-à-vis de mes habitants. En fait, nous, la commune de Morbecque, hein, c'est une commune de 1700 habitants, très périurbaine, hein, périphérique, j'aime pas le taux, enfin, je ne veux pas employer le terme parce que c'est des fois péjoratif là-dessus. Mais voilà, je voulais simplement afficher mon soutien par rapport aux gens qui sont emmerdés, je vais dire, pour prendre leur voiture, pour aller bosser et qui en ont marre des taxes.
Juste une question, est-ce qu'une mairie ne doit pas afficher une certaine neutralité ?
Bonne question, vous avez raison, effectivement, vous avez raison. Je me suis posé la question hein, avant de faire ça, mais compte tenu des gens que j'ai rencontrés dans les permanences que j'ai au niveau de la commune, les gens me disaient, monsieur le maire, on n'en peut plus, on n'en peut plus.
D'accord. Voilà. Mais pardon, alors, juste un mot.
Votre question. Effectivement, vous avez raison. Oui, ça coûtait 800 euros, je l'assume, hein, clairement.
Vous l'assumez, vous l'avez payé de votre poche ou c'est financé par la municipalité ?
C'est financé par la commune. S'il faut que je finance par ma poche, je le fais. Mais vous savez, j'habite Pambec, je suis pas loin du Touquet. Hein. Vous connaissez le Touquet, ça va de soi.
Oui.
Vous savez, quand le président de la République, à juste titre, fait surveiller. Ben, vous connaissez le président de la République quand même.
Oui, il faut dire, c'est là où le président de la République a sa maison de vacances de week-end, si j'ose dire.
Oui, entre autres. Quand elle est surveillée 7 jours sur 7, 365 jours par an, et enfin bref, peu importe, 24 heures sur 24, est-ce que, et par des gendarmes hein, qui sont là, présents, constamment, est-ce que ça coûte pas de l'argent non plus, ça ?
Non, non, je vous le reproche pas, je vous demande si c'était légal et qui avait payé, vous m'avez répondu, ça a été payé par la municipalité.
Oui, c'est légal, heureusement, c'est légal.
D'accord.
Je le fais légalement, ça va de soi.
Plusieurs manifestations ce matin, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des incidents, je crois savoir. C'était à Hasbrouck. Comment se sont passées les manifestations ce matin ?
Très bien. En fait, il y a eu un petit problème le matin tôt. Quelqu'un qui est passé en force, enfin, peu importe. Les services de sécurité, enfin, la police en l'occurrence à Hasbrouck, a bien assuré les choses. Et puis les gens ont été très pacifiques. Sincèrement, c'est vraiment pacifique. Je regardais un petit peu, il y avait une mobilisation vers l'Elysée tout à l'heure. Je voyais les gens.
Place de la Concorde.
Pacifique, soyons clairs.
Oui, on a déjà vu des manifestations plus agressives. Un mot, Jean-Rémy Baudot, est-ce que l'opposition tente ou réussit de surfer sur le mouvement ?
Alors, il y a deux exemples cet après-midi. Par exemple, Laurent Wauquiez, qui était au Puy-en-Velay, qui était assez habile parce qu'il il était déjà sur ses terres. Comme ça, on n'avait pas l'impression... Enfin, il pouvait se targuer de ne pas avoir l'air de récupérer le mouvement. Il appelait le président de la République à comprendre et corriger ses erreurs, à revenir sur les taxes. En gros, il dit qu'il ne faut pas récupérer... Il se mettait en avant sur les classes moyennes. C'était relativement habile comme gestion. Et puis, autre personnalité, Jean-Luc Mélenchon, une mobilisation plutôt discrète. On l'a vu entonner une Marseillaise devant l'Assemblée nationale, mais ça a fait à peine un tweet. Il n'avait pas de gilet jaune. Peut-être est-ce qu'il sentait que que sa présence n'était pas forcément la plus attendue.
Ils étaient nombreux autour de Jean-Luc Mélenchon.
Non, sur le tweet, on voit qu'ils sont genre 10.
Juste une question. Est-ce que le gouvernement peut faire marche arrière pour calmer la colère ? Est-ce que les images qu'on a vues ici, les retours qu'ils ont de province, peuvent infléchir leur position ?
Non, très clairement non, car l'exécutif considère ce soir, eh bien, que la mobilisation de toute façon n'était pas très importante et qu'ils n'ont pas de raison de changer de stratégie. Emmanuel Macron, il est persuadé qu'à force de répéter ces réformes, les gens vont comprendre. C'est pour ça qu'il aime aller au contact, quitte à se faire siffler d'ailleurs. Un proche du Premier ministre me disait ce soir qu'il n'y aura pas de changement de cap. La réalité, c'est que pour l'instant, ils ont le sentiment que les réformes qu'ils ont mises en place ne sont pas comprises, qu'elles ne sont pas intégrées par les Français, quand même ça change sur leur fiche de paye ou sur leur taxe d'habitation. Et ils se disent, voilà, il nous faut du temps pour que les gens voient ça dans la réalité. Après, la réalité aussi, c'est concrète, politiquement, c'est que ce soir, aujourd'hui, c'est quand même un échec que des milliers de gens descendent dans la rue alors que le président dit que les choses changent.
Jérôme Darc, maire d'Hiver Droit de Morbecque.
Je peux compléter ce que dit l'analyste politique.
Jean-Rémy Baudot, allez-y.
Moi, sincèrement, je n'ai pas la même perception que lui. Moi, je suis allé sur le terrain, je peux vous dire une chose, c'est que sur le terrain, les gens, on en ras-le-bol. Sincèrement, moi, je le sens. Je suis un petit élu local de ma commune, sans clair. Je peux vous dire que les gens perçoivent totalement les choses différemment.
Pour revenir totalement. À l'image qui nous a... Pardonnez-moi, monsieur le maire.
Sincèrement, que si le président, quand je vois, c'est quand même pas neutre. Quand les gens vont au Faubourg Saint-Honoré. C'est quand même pas neutre.
C'est que l'Élysée est à côté.
À avis, les policiers et les gendarmes ont laissé passer. Ils ont filtré, tranquillement. Mais ils ont repoussé après, parce que naturellement, ils ont eu des ordres. Ça va de soi. Mais c'est pas neutre. C'est pas neutre. C'est-à-dire, en fait, simplement, le président de la République, il suffit simplement de dire « Je vous ai écouté. Je vous entends. J'entends la colère. »
Monsieur le maire, pardonnez-moi, monsieur le maire, vous avez affiché un grand gilet jaune sur votre mairie. Quand allez-vous le retirer ?
Je sais pas. Je vais être clair avec vous. Ce gilet jaune, j'y ai pensé il y a une semaine. J'ai entendu Edouard Philippe, RTL, enfin peu importe. Je l'ai entendu mardi ou mercredi.
En tout cas, vous n'allez pas le retirer. Vous n'allez pas le retirer entre ce soir et demain.
Ah non, ça c'est clair, non.
Merci beaucoup, Jérôme Darc, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 19h de Sophie Tussaud, elle fera évidemment la part belle à la manifestation des Gilets rouges qui s'est déroulée aujourd'hui dans toute la France et qui se déroule encore.
18h, 20h, Philippe Vandel sur Europe 1.
Après le journal de Sophie Tussaud, on va continuer évidemment cette spéciale Gilets jaunes jusqu'à 20h. On va recevoir notamment Nicolas Dupont-Aignan à 19h15. Vous pouvez continuer de nous appeler au 3921 pour témoigner. Et à 19h30, nous aurons un débat pour faire le point sur cette journée et dresser des perspectives avec Catherine Ney, Charles Villeneuve d'Europe 1 et le sociologue Yves Saint-Omer. À tout de suite.
Oui, à tout de suite sur Twitter. Vous êtes nombreux à partager vos photos, vos vidéos sur cette journée de mobilisation des Gilets jaunes. Continuez à le faire avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. 19h, bon début de soirée sur Europe 1. Le journal Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
À la colère des Gilets jaunes, deux France s'opposent, celle des manifestants qui ont bloqué le pays et celle de ceux qui n'adhèrent pas au mouvement, ce qui a créé beaucoup de tensions. Plus de 2000 rassemblements ont été comptabilisés dans toute la France et près de 500 barrages. Nous irons à Fréjus dans ce journal. Ce soir, de nombreux manifestants restent mobilisés dans différents endroits du pays. Le point sur la situation avec Marguerite Lefebvre. Et puis nous verrons également comment les autorités ont tenté de gérer la sécurité durant cette journée.
Europe 1.
La colère des Français portait donc une couleur aujourd'hui, celle du jaune, celle des gilets, qu'arboraient les manifestants.
244 000 personnes ont manifesté à travers la France aujourd'hui, selon la place Beauvau. Un seul leitmotiv, protester contre la hausse des prix du carburant. Une mobilisation qui a été endeuillée. Une femme de 63 ans a été tuée ce matin en Savoie, à Pont-de-Beauvoisin. Une automobiliste prise de panique a foncé sur les manifestants qui tapaient sur sa voiture. En tout, 106 personnes ont été blessées au cours de la journée, dont 5 graves. Des incidents sont à déplorer également dans les Alpes-Maritimes, l'Aude, la Gironde, en Charente, en Corrèze, en Dordogne et également dans le Pas-de-Calais, à Arras, où un automobiliste a tenté de forcer un barrage. Kevin Tullier, vous êtes sur place pour Europe 1 et la tension entre manifestants et non-manifestants est bien présente.
Oui, on sent une certaine tension ici entre les 150 à 200 gilets jaunes et certains automobilistes. Depuis ce matin où un homme de 71 ans était renversé près d'un rond-point, blessé gravement, il souffre d'une fracture du crâne. Un quart de police est désormais présent sur place en permanence. Mais des conducteurs n'hésitent pas à s'en prendre directement aux manifestants.
Mais regardez, c'est quoi votre revendication aujourd'hui? C'est quoi votre message les gars? Il y a rien, c'est creux votre mouvement. Mais c'est qui votre leader? Mais c'est quoi le message?
On n'a plus rien dans notre porte-monnaie à la fin du mois. Découvert et on en a marre.
Et c'est Macron qui fait ça?
Oui, ouais, c'est Macron.
Charges qui nous fait.
Des échanges symboles d'une population plutôt divisée sur cette mobilisation, comme le constate Laurent, l'un des gilets jaunes présents.
Ouais, j'ai pas encore vu une petite voiture essayer de forcer. C'est quand même des gens qui ont les moyens et c'est certainement ce genre de personnes qui ont mis le bulletin pour Macron. Quoi. Je veux bien, mais nous, il n'arrivera pas à nous endormir, c'est fini. Un an et demi qu'il est là, un an et demi où c'est tous les mois de plus en plus dur. On va pas attendre les bras croisés devant la télé.
C'est qui que t'emmerde? C'est nous que t'emmerde!
Malgré cette tension, les Gilets jaunes se disent déterminés. Maxime souhaite à tout prix continuer le mouvement dans les prochains jours.
Le problème, c'est qu'ils sont là, ils sont contre nous, tout ça. Il y en a, ils sortent de leur voiture pour nous crier dessus et tout. Alors que si on arrive vraiment à faire changer les choses, ils seront aussi bénéficiaires de changements. Donc c'est ça que je trouve dommage. Il faut continuer vraiment jusqu'à ce que ça change.
Et pour, comme ils disent, faire changer les choses, les Gilets jaunes ont prévu de renouveler cette mobilisation ici à Arras dès lundi si le gouvernement n'ouvre pas de négociations.
Kevin Tullier, Arras pour Europe 1. Vision différente et opposition également entre manifestants en Bretagne. À Vannes, un militant écologiste s'est confronté à des Gilets jaunes. Et je vous propose d'écouter le vif échange qu'ils ont eu.
Mais venez avec nous!
Non, parce que moi je suis pour.
Vous êtes pour quoi?
Je suis pour l'augmentation des taxes sur le gasoil.
Mais il n'y a pas que le gasoil!
Et
l'ISM!
Non, je suis pas le franc-maçon.
Non, mais monsieur,
non, mais attendez. Non, mais attendez, quand vous roulez 200 km et que vous n'avez plus de ni papillons, ni moustiques, ni quoi que ce soit qui sont votre abri, alors qu'il y a 10 ans, il y en a encore plein. Ils sont où tous ceux-là?
Mais
non, non,
donc
on
vous voyez que nos aïeuls se sont battus pour avoir tous les droits qu'on a maintenant, et qu'à l'heure actuelle on vit dans une dictature, et que les gens, même avec deux salaires dans une maison, on n'y arrive plus. Vous trouvez ça normal? Vous êtes pour ça? On n'est pas que pour ça. Moi, je suis pour ma grand-mère qui perd au niveau de sa retraite.
À l'époque, les misérables se battaient aussi.
Mais les misérables,
il y a toujours
la France. Nous sommes le peuple.
Moi aussi, je fais partie
c'est
du peuple.
Qui fait, vous, aussi. Vous n'êtes du pas peuple, misérable. C'est le peuple
alors.
Qui vous
bah, soulève. Si, j'ai des difficultés attendez. Comme tout le monde. C'est pas pour autant que je suis pour.
On n'est pas là que pour le carburant, monsieur. Moi, je suis pas là que pour le carburant. Moi, je suis pour tout ce qui va mal en France.
M'engueulez pas. Moi, je suis pas Macron.
Je t'engueule pas, je t'explique. Comme dit Coluche, c'était ça. Je t'explique.
Mon point de vue.
Voilà,
je dis que malheureusement, aujourd'hui, on pollue tous. Et qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience.
Cet échange entre manifestants et ce militant écologiste a été capté par le correspondant d'Europe 1 en Bretagne, Pierre-Baptiste Vanzini.
Passionnant échange. On va prendre maintenant la direction du sud de la France. On va se rendre à Fréjus, c'est dans le Var.
Oui, à Fréjus, où les Gilets jaunes ont dressé un important barrage sur la 8. Barrage que finalement, les manifestants ont décidé d'ouvrir un peu ce soir, Frédéric Michel.
Effectivement, le péage du Capitou est paralysé dans les deux sens depuis 14 heures. Ce sont plusieurs centaines de gilets jaunes qui se sont donné rendez-vous sur cet axe stratégique reliant Nice à Aix-en-Provence et Toulon. Après avoir entièrement bloqué le péage dans les deux sens, les manifestants ont laissé passer au compte-gouttes des véhicules en milieu d'après-midi et ils viennent de décider d'ouvrir le péage pendant quelques minutes, peut-être une heure, pour libérer les milliers d'automobilistes et routiers bloqués sur la 8. On compte près de 20 km de bouchons.
On se recule, on se met tous là-bas. Pendant une heure, je t'explique pourquoi. Avant de dire non, tu dois te remêler. Écoute-moi, il y a des gens qui font demi-tour sur l'autoroute. Il y a peut-être une famille qui va se cartonner à contresens. T'as vu, parce que nous, on bloque trop. On va filtrer, mais il faut faire les choses bien, il faut réfléchir. Là, on laisse une heure que ça se débouche un peu.
Voilà, ici à Fréjus, à part quelques frictions, tout s'est bien passé. J'ai vu des jeunes, des retraités, des motards, beaucoup d'actifs, entre 30 et 60 ans, comme Tony.
Je travaille dans l'informatique. On fait des arbitrages en permanence. Je peux pas partir en vacances parce que j'ai ça à faire. Ou j'ai tant d'impôts qui tombent. Bah, cette année, on part pas, on fait pas ci, on fait pas ça, tout le temps. On passe notre temps à faire ça. Et encore, nous, on arrive à se chauffer. On s'est fait pomper, ça fait 15 ans que ça dure, 20 ans que ça dure. On en a ras-le-bol. Mais vraiment ras-le-bol. Et je crois que c'est tout le monde. On est tous pareils, quoi.
Certains manifestants aimeraient aussi passer la nuit sur l'autoroute. Les plus motivés disent vouloir continuer le mouvement au moins jusqu'à dimanche soir. Pas sûr que les gendarmes présents sur place les laissent faire. Des gendarmes qui discutent assez facilement avec les gilets jaunes.
Merci Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le sud de la France.
Europe 1.
L'édition spéciale sur le mouvement des gilets jaunes continue. Dans un instant, le point sur les blocages toujours en cours.
19h09, la suite du journal. Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Gilets jaunes, colère noire, c'était l'un des slogans des manifestants aujourd'hui.
Oui, une colère qui perdure ce soir, même si beaucoup de manifestations ont pris fin. Il y a encore pas mal de points de blocage ce soir, Marguerite Lefebvre.
Oui, la situation reste compliquée ce soir sur de nombreux axes. C'est le cas dans le sud-ouest, à Toulouse. Des blocages filtrants sont toujours en cours sur le périphérique, notamment sur la partie de la Roseraie. Les autorités recommandent d'éviter le secteur. Dans le sud-est, Frédéric Michel nous le disait il y a quelques instants, la situation sur l'A8 est toujours compliquée au niveau de Fréjus. Blocage encore à l'heure actuelle sur l'autoroute A13. L'accès est bloqué au niveau du péage de Buchelet. Et puis à Paris, la situation n'est toujours pas rentrée dans l'ordre. Les manifestants ont été éloignés du palais de l'Élysée. Mais certains se trouvent toujours place de la Concorde et sur l'avenue des Champs-Élysées. Une avenue qui est toujours en partie bloquée à la circulation. Selon le ministère de l'Intérieur, 274 manifestations ont pris fin. Ce qui veut dire qu'il reste encore de nombreux points de rassemblement. Les autorités mettent en garde, appellent à la plus grande prudence car la tombée de la nuit accentue le danger pour les manifestants qui se trouvent sur les routes. En tout aujourd'hui, toujours selon la place Beauvau, 282 000 personnes sont descendues dans les rues. C'est un chiffre qui a été actualisé il y a quelques secondes par le ministère de l'Intérieur.
Merci Marguerite Lefebvre. Alors parmi les rassemblements toujours en cours, on vient de l'entendre, celui aux abords des Champs-Élysées. Jean-Jacques Herry, vous êtes sur place pour Europe 1. La situation est-elle toujours tendue?
Pas tendu, mais je parlerai plutôt d'une situation un peu confuse. La circulation a en partie repris sur une partie de la place, mais on voit des manifestants qui se baladent un peu partout en gilet jaune au milieu des gyrophares des voitures et des camions des forces de l'ordre. Un point de friction se situe au niveau de la rue de Rivoli. C'est là que se sont réunis une centaine de manifestants qui ont dressé deux barrières au milieu de la rue, ce qui provoque évidemment un embouteillage monstre. Et là, à nouveau, je vois des gendarmes mobiles avec leurs boucliers qui bougent et prennent position sans doute pour probablement rétablir la circulation, ce qui marquera sans doute le début de la fin de cette manifestation parisienne. Mais voilà, je le répète, c'est difficile à savoir, hein, tellement la situation est confuse ici. Ce qui est certain, c'est qu'il y a moins de manifestants que tout à l'heure, mais ceux qui restent ont l'air déterminés. Quant aux policiers, gendarmes et CRS, de leur côté, ils n'ont pas l'air non plus particulièrement tendus.
Merci Jean-Jacques Herry. Alors la journée, on l'a évoqué, a été émaillée d'incidents. Les forces de l'ordre sont beaucoup intervenues. Alain Co, quel est le bilan sécuritaire du côté du ministère de l'Intérieur?
Alors le dernier bilan, qui est encore provisoire bien sûr, puisqu'il ne tient pas compte de ce qui pourrait éventuellement se passer ce soir à Paris, le dernier bilan fait état de 117 interpellations, dont 73 ont donné lieu à une garde à vue. Parmi ces 73 personnes en garde à vue, il y a des gilets jaunes qui se sont opposés aux forces de l'ordre, mais aussi plusieurs automobilistes qui ont tenté de forcer les barrages au risque de renverser des manifestants. C'est ce qui est arrivé, vous l'avez dit, à plusieurs reprises en Savoie ce matin, occasionnant un décès, mais également à Arras où il y a eu des blessés, un décès en Savoie pardon, et plusieurs blessés ailleurs. 227 blessés d'après le ministère de l'Intérieur, c'est le bilan ce soir, dont 6 gravement touchés. Parmi les forces de l'ordre et les pompiers, on en dénombre au moins 5 à Grasse, Quimper, Porto Vecchio, Strasbourg. À Strasbourg, c'était en marge du mouvement des Gilets jaunes. Un motard de la police a pris en chasse un véhicule qui roulait trop vite et a été percuté par une automobiliste à un carrefour. Il souffre de plusieurs fractures. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé qu'aucun blocage total ne serait toléré. Il a tenu parole. Les forces mobiles sont intervenues ce matin pour dégager plusieurs axes. Le tunnel du Mont-Blanc, le pont de Normandie, l'autoroute A16 à Grande-Synthe, l'A3 en Meurthe-et-Moselle, l'A9 près du pont du Gard. À noter enfin qu'à Troyes, dans l'Aube, des manifestants ont réussi cet après-midi à forcer les portes de la préfecture et ont occupé le bâtiment pendant une vingtaine de minutes.
Merci Alain Co du service police-justice d'Europe 1 et je vous signale qu'à l'instant le ministère de l'Intérieur vient de réactualiser le mouvement des Gilets jaunes et qu'il fait état ce soir de 282 000 manifestants en France.
C'était le journal de Sophie Tussaud. Merci Sophie.
Europe 1, 19h13.
La météo, c'est avec vous Valérie Darmon et là aussi on va réactualiser. Attention dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales qui sont placées en alerte orage-inondation. Sinon, le ciel bleu d'aujourd'hui va-t-il se maintenir demain ?
Un grand oui, le beau temps revient même dans le sud-est. Le temps sera calme, plus ensoleillé encore toute la journée que celle d'aujourd'hui. Passer les brouillards matinaux du matin évidemment. Mais attention, les conditions resteront très agitées en Languedoc-Roussillon, surtout sur les Pyrénées-Orientales, très orageux. Attention aux fortes pluies et surtout à la neige qui va tomber, sans doute en tempête d'ailleurs, dès 1700 mètres d'altitude. Le vent sera toujours assez sensible aussi au nord de la Loire. Les températures seront stables, 9 degrés en moyenne au nord, 13 au sud, avec au cœur de notre après-midi dominical, 7 annoncés à Dijon et à Chartres, 8 à Charleville et Alençon, 9 degrés à Paris et au Mans, 10 au Havre, 11 à Nantes et Clermont-Ferrand, 13 à Carcassonne, 15 à Biarritz et 16 à Marseille.
Merci beaucoup Valérie Darmon et l'alerte orage, c'était évidemment l'alerte orange.
Oui.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Philippe.
Et il y a du rugby ce soir, ça ne joue pas en orange, c'était hier le orange. Le 15 de France affronte l'Argentine à Lille. Il est question de victoire bien sûr, mais pas seulement.
Les Bleus veulent éviter une 6e défaite consécutive. Ils veulent aussi séduire un public et des supporters qui ont tendance à déserter. Ils étaient 40 000 samedi dernier au Stade de France. Combien seront-ils ce soir au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, tout près de Lille? D'autant que certains auront peut-être annulé leur déplacement en raison de la manifestation des Gilets jaunes. On prend la direction du Nord où nous attend notre envoyé spécial Axel May. Axel, est-ce que l'on a une idée de l'affluence et de l'accueil qui sera réservé à ce 15 de France?
Eh bien écoutez, 50 000 places disponibles, 42 000 supporters attendus. Donc non, le stade ne sera pas plein, mais il ne sera pas vide non plus. Alors que les portes ne sont pas encore ouvertes au public, on devrait avoir l'impression tout à l'heure d'être dans une enceinte bien plus remplie que samedi dernier, où un tiers des places n'étaient pas occupées au Stade de France. À noter qu'il y a une trentaine de minutes, quelques véhicules avec des gilets jaunes ont ralenti l'accès autoroutier au stade Pierre-Mauroy, un stade avec le toit couvert hein, qui a été installé ce soir et sur la pelouse. Alors où je vous parle, en ce moment, on a quelques Français remplaçants qui s'échauffent. Des Français avec un mot d'ordre, vous l'avez dit à Christophe, retrouver le goût de la victoire.
Axel May en direct du Stade de France, du Stade Pierre-Mauroy de Lille. Le Stade de France était la semaine dernière et le 15 de France qui pourra prendre exemple ou s'inspirer des filles puisque les Françaises ont battu la Nouvelle-Zélande 15-14. quintuple championne du monde, 30 à 27.
La voile avec la route du Rhum, et il y a des victoires qui peuvent faire basculer un destin.
C'est ce qu'espère Paul Mella, qui a remporté l'épreuve dans la catégorie monocoque. Il a bénéficié involontairement du déclassement d'Alex Thompson. Le Français remporte sa première grande victoire et il espère que cela lui permettra de s'aligner au départ du Vendée Globe dans 2 ans. Lui qui n'a toujours pas de sponsor et qui ne peut donc pas boucler son budget.
Bah, tombe à pic, je sais pas. T'as des bonnes nouvelles à m'annoncer, hein, parce que moi j'en ai pas, donc j'avais envie de faire une belle course parce que c'était un beau projet et que ça s'est bien passé et que ces 4 années ont été exceptionnelles et que du coup je me sentais capable de faire une belle course. Mais c'était pas forcément en disant c'est comme ça que je vais trouver un partenaire pour la suite. C'est un sport de dingue et qu'il faut goûter, parce que je pense que tous ceux qu'ont essayé, ils ont adoré et on vit des émotions incroyables, et je pense que nous et les gens qui nous suivent à terre. Je suis ouvert à toute proposition, hein. Je pense qu'on peut encore construire un bateau aussi. Construire un bateau neuf, c'est encore possible. Modifier celui-là, c'est possible. Voilà, il y a plein de choses possibles.
Paul Mella au micro de Corinne Boulou.
Et puis le reste de l'actualité sportive, en bref.
Le Masters de tennis à Londres, pas de finale pour Roger Federer qui s'incline en 2 manches devant l'Allemand Alexander Zverev. L'autre demi-finale opposera tout à l'heure le numéro 1 mondial Novak Djokovic au Sud-Africain Kevin Anderson.
C'était le Journal des Sports. Merci beaucoup Christophe.
Europe 1.
Le mouvement des Gilets jaunes se veut apolitique, mais pourtant certains leaders le soutiennent publiquement, comme Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Il sera avec nous dans quelques instants.
19h19, Europe 1 en édition spéciale Gilets jaunes jusqu'à 20h dans votre grand journal du soir. Et maintenant, Philippe Andel, vous recevez le président de Debout la France.
Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan.
Bonsoir.
C'est donc président de Debout la France, maire de Hyères. C'est à combien de kilomètres de Paris ?
20 kilomètres.
Merci d'être ici avec nous en direct dans le studio d'Europe 1. Comment êtes-vous venu ?
Avec ma voiture, vous voyez.
Donc c'était pas bloqué ?
C'était pas bloqué.
Est-ce que vous avez manifesté aujourd'hui ?
J'ai été saluer les manifestants dans ma ville.
Pas davantage ?
Non, parce que je ne voulais pas en rajouter. C'est une manifestation citoyenne. Et si j'avais été avec eux en plus, on aurait dit qu'on récupérait, etc. Donc j'ai pas voulu en ajouter davantage, mais j'ai été les saluer, les encourager, leur donner des consignes de prudence après ce drame terrible de ce matin, et leur dire que c'était un combat juste.
Ça fait un moment que vous militez en faveur des automobilistes. Je me souviens que cet été, vous étiez contre la limitation de vitesse à 80 km/h. C'était pas votre premier combat.
Non, vous le savez, j'avais porté le gilet jaune à l'époque. Ça n'intéressait personne lors de la privatisation des autoroutes, qui est une spoliation publique incroyable par une des entreprises privées. J'avais en 2012 fait des propositions pour une taxe flottante qui permette la baisse des taxes quand le prix du baril augmente et la hausse des taxes quand le prix du baril baisse, pour épargner les Français dans l'indifférence générale. Mais trop c'est trop aujourd'hui, et je me réjouis qu'enfin ce que je disais depuis des années soit entendu. Il n'y a pas que moi, ce mouvement il est citoyen, c'est pas le mouvement de monsieur Dupont-Aignan ou d'un autre, c'est le peuple français qui n'en peut plus d'être inquiété, d'être pressé.
Et oui, ce matin, vous aviez appelé tout le monde à manifester, quelle que soit sa couleur politique.
Mais
et
oui, parce que c'est pas la question d'un parti politique. Vous savez, j'ai parlé avec beaucoup des manifestants aujourd'hui, tous m'ont dit la même chose, on n'en peut plus. Le porte-monnaie est vide.
Tous vos amis ou même
non,
des
il y avait même un macroniste qui est arrivé pour vous dire.
C'est pas vrai.
Oui, il a dit je suis macroniste, j'ai voté Macron, je suis indigné, je suis trahi. Donc c'est pas une question. Ce que je voudrais que le gouvernement comprenne, et malheureusement j'entendais Monsieur Castaner ce soir, je suis effaré. Je voudrais qu'ils comprennent que
effaré
les gens
par quoi ?
Par leur inconscience, le fait qu'ils vivent hors sol, qu'il récite des éléments de langage, de communication.
Mais concrètement, quelle phrase de Monsieur Castaner vous a...
Tout, on change pas de cap, on continue. Mais est-ce qu'il réalise que les gens qui utilisent leur voiture le font pas par plaisir, qui travaillent avec leur voiture? Est-ce qu'il réalise que dans la plupart des départements de France, les services publics ont fermé, les hôpitaux ont fermé, les écoles ont fermé, les entreprises ont fermé, et que les Français qui vivent en province sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, pour vivre tout simplement? Est-ce qu'il réalise qu'ils ont déjà augmenté de 10 euros par plein les taxes et qu'ils veulent réaugmenter encore de 10 euros pour les 3 prochaines années? Voilà, les gens n'ont plus d'argent dans le porte-monnaie. Les gens ont compris que M. Macron avait donné 5 milliards à 3 000 familles les plus riches de France et qu'il les prenait dans leur porte-monnaie. Ben, il y a un moment, ça aboutit à une jacquerie, à une pré-révolution. C'est dangereux, je voudrais pas qu'il y ait d'autres morts. Je supplie le gouvernement d'entendre la souffrance des Français, c'est tout.
En marge du ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Agriculture a dénoncé, je le cite, une tentative de récupération politique par l'extrême droite, la droite et la gauche, je le cite, les mêmes qui ont approuvé l'augmentation des taxes sur le carburant pour mettre au même niveau, le diesel et l'essence, ça vaut aussi pour vous.
C'est faux. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Soyons précis. Si le gouvernement avait dit on veut harmoniser diesel et essence, bah, pourquoi pas, pour changer les comportements. Mais moi, j'ai proposé de l'harmoniser par le bas, c'est-à-dire faire baisser le niveau de l'essence au prix du diesel. Lui, il a fait autre chose. Il a non seulement augmenté le diesel au prix de l'essence, mais il a augmenté le prix de l'essence. Ce qui prouve sa mauvaise foi. Même Madame Royal, qui avait déjà augmenté les taxes, l'a reconnu. C'est-à-dire que, pourquoi les gens sont dans la rue? Moi, je pense que dans la vie, il faut toujours essayer de comprendre les choses. Pourquoi les gens sont écœurés? C'est parce qu'ils voient bien qu'on leur tient un discours écologique et qu'en vérité, le motif n'est pas écologique. Il est sur le fond des tiroirs, le fond des poches. Et c'est pour ça qu'il y a une indignation. Vous savez, moi j'aime l'histoire, je regarde l'histoire de France. C'est pas toujours les mesures qui choquent, c'est l'arrogance. Et ce qui va pas dans ce pouvoir et dans Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est ce cause toujours, on s'en fiche, on continue,
c'est la manière,
on n'en a rien à faire.
D'où le mea culpa du président Macron sur le porte-avions.
Oui, mais il ne change pas d'attitude. Est-ce que vous croyez qu'il y a 300 000, et à mon avis il y en a beaucoup plus, personnes qui sont sorties dans la rue, des honnêtes gens, qui manifestent jamais? Il y a quelques casseurs ce soir, mais c'est pas ça. Les gens qu'on manifeste aujourd'hui, ils manifestent jamais. Est-ce que vous croyez que ça leur fait plaisir de sortir dans la rue pour manifester? Ils l'ont jamais fait, ils le font parce qu'ils n'en peuvent plus. Et face à ça, le gouvernement s'en fiche royalement.
Delphine Bateau, qui est la nouvelle présidente de Génération Écologie, a considéré, elle, que manifester avec les gilets jaunes contre les taxes sur les carburants revenait, je la cite, à participer à une manifestation de solidarité avec le lobby pétrolier. Que lui répondez-vous?
Mais je dis n'importe quoi. Mais ça va pas la tête. Notre pays est le seul pays industrialisé qui a respecté le protocole de Kyoto, dont le gaz carbone n'augmente pas. Le seul pays au monde industrialisé. Deuxièmement, le gouvernement n'a pas taxé les supertankers, les paquebots, qui polluent comme des millions de voitures chacun.
Oui.
Il n'a pas mis de taxe carbone aux frontières. Parce qu'on sait que c'est les produits qui sont fabriqués loin qui polluent. Par le trajet.
On n'a pas réussi. C'est que les portiques ont été démantelés par les bonnets rouges.
Non, ça c'était la taxe carbone à l'intérieur du pays. C'est pas ça dont je parle. C'est une taxe carbone sur les produits importés qui viennent de loin et qui polluent.
Vous savez très bien que c'est interdit parce qu'on ne peut pas appliquer une loi différente pour les Français et les non-Français.
Attendez, Monsieur Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il taxe les produits qui viennent de Chine?
Mais Monsieur Trump, il n'est pas en Europe. Je voudrais vous faire entendre.
Moi, je suis français et je voudrais que les dirigeants français défendent les Français et que les dirigeants européens s'occupent de défendre l'écologie européenne. Au lieu de taxer ceux qui travaillent et qui polluent peu, on laisse entrer des produits qui polluent énormément. C'est le monde à l'envers. Voilà pourquoi les Français sont en colère. Et je demande à Madame Bateau d'aller faire un stage 8 jours dans une ville de province et de voir la vie des Français réels.
Je voudrais vous faire entendre un avis divergent qu'on a reçu au 39-21. Bonsoir Thierry, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui.
Vous êtes dans l'Oise et vous avez un avis totalement différent là-dessus au sujet du prix du gasoil, des taxes. Et vous dénoncez, je vous cite, la bêtise des gilets jaunes.
Écoutez, moi, mon argumentaire, je vais l'effectuer en 3 points.
Mais rapidement quand même, 3 points rapides.
Oui, non mais ça sera très rapide. Le premier point, il y a 30 ans, si on compare par rapport au SMIC, il y a 30 ans, on payait le gasoil 2,5 fois plus cher relativement par rapport au SMIC.
C'est vrai.
La deuxième chose, les voitures consomment deux fois moins. Ce qui veut dire, globalement, c'est qu'on paye relativement 450% moins cher le gasoil qu'il y a 30 ans.
Exactement.
Alors, il y a 10% de prix en plus, bon, ok, 450 par rapport à 10, pour rester très, très raisonnable. Le deuxième point, quand il y a des taxes, moi je considère que la France est un peu une grande famille, et ben les taxes, ça sert à payer les hôpitaux, nos infirmières, ça sert à payer les écoles, etc. Et le troisième point, ben, l'environnement, c'est important. Moi j'habite, j'ai mon jardin, ben, je peux vous dire que depuis 5-6 ans, on voit vraiment l'évolution du changement climatique. On manque d'eau. Je peux vous dire que dans ma région, en Picardie, on a vraiment manqué d'eau cet été. Et bien, si on fait rien, si on dit que c'est la faute des autres ou qu'il faut attendre que les autres fassent quelque chose pour que nous, on fasse quelque chose, moi, j'estime que personnellement, le comportement, humaniste et puis citoyen, Les gens l'ont pas. Et si on peut taxer avec le portefeuille pour que les gens deviennent plus raisonnables avec les émissions de CO2, ben on le fait.
Thierry, merci pour votre appel au 39-21 sur Europe. Nicolas Dupont.
Thierry. Moi, j'ai proposé un grand plan de transition écologique, comme fait la Norvège d'ailleurs. Mais là, avec par exemple prêt à taux zéro, pour pouvoir acheter une voiture qui ne pollue pas. Mais pour ça, il faut avoir les moyens. Moi, j'entendais, je sais plus quel député
non
en
mais
marche,
là, sur ce qui vous disait, la France est une grande famille non et les taxes, c'est une manière de partager.
Attendez, partager? 10 000, il va y avoir 12 milliards de taxes supplémentaires sur les automobilistes à partir du 1er janvier 2019 pour partager avec 3000 familles qui ont reçu 5 milliards d'euros. Les plus riches de France, les plus riches des plus riches, et même pas les riches, c'est les plus riches des plus riches. Alors si c'est le partage d'En Marche, ben bon courage monsieur, parce qu'il y a un moment, vous pouvez pas écorcher les gens. Ils peuvent plus vivre avec leur SMIC. Donc moi je demande simplement qu'il y ait un grand plan écologique, j'ai proposé le prêt à taux zéro, parce que c'est pas avec 4000 euros pour une voiture quand vous gagnez le SMIC et que vous pouvez pas payer la voiture, vous en sortez pas. C'est très facile quand on a les moyens de dire ça, mais les peuples français aujourd'hui n'ont plus les moyens de cela. Alors, est-ce qu'on peut pas changer de politique? Écoutez un peu avant que ça finisse en révolution. Car il y a eu un mort aujourd'hui. Et moi, je veux pas qu'il y en ait d'autres demain.
Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Je rappelle que vous êtes président de Debout la France.
19h31, suite de notre édition spéciale Gilets jaunes dans votre grand journal du soir avec vous, Philippe Vandel, et vos invités. On débat jusqu'à 20h.
Quel avenir pour les Gilets jaunes? Que va devenir ce mouvement? S'il va perdurer, le gouvernement peut-il ou non céder, c'est-à-dire renoncer à augmenter encore la taxe carbone sur les carburants? On en parle avec nos trois débatteurs. Bonsoir Catherine Ney.
Bonsoir.
Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien, tout comme Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Yves Saint-Omer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur de sciences politiques à l'université de Paris 8 Saint-Denis. 182 000 manifestants ont été annoncés par le ministre de l'Intérieur il y a quelques instants. 150 points de blocage officiels avaient été recensés. Les autorités en attendaient un millier. Il y en a eu plus de 2300. Comment jugez-vous, j'arrive à le dire, ce mouvement? Un succès, un demi-succès, un raz-de-marée? Yves Saint-Omer.
Oui, à l'évidence, c'est un succès pour un mouvement qui est parti de la base, même s'il y a évidemment des forces militantes qui s'y sont jointes.
J'avais entendu le chiffre d'un million. Là, c'est quatre fois moins.
Oui, c'est pas un raz-de-marée, mais c'est un succès. D'autant que c'est une première manifestation, on ne sait pas ce que ça va donner ensuite. Il me semble que aujourd'hui, c'est incontestablement une mobilisation d'ampleur.
Catherine Ney, vous attendiez à ce chiffre?
C'est-à-dire que c'est parti, dans le fond, ce mouvement des Gilets jaunes est parti d'un clic d'une jeune femme en Seine-et-Marne qui râlait contre le prix du kérosène. Et elle avait quand même eu près de 900 réponses, 900 000 réponses. Donc on s'était dit, 1 million de réponses, donc on s'était dit que peut-être, vous voyez, il y aurait chacun qui aurait apporté une réponse viendrait sur le terrain. Donc, mais c'est quand même un succès formidable.
Charles Villeneuve, la même question.
Moi, je pense que c'est un succès. Pour une raison simple, c'est qu'il ne peut y avoir appliqué à cette manifestation relativement spontanée, puisqu'elle a été préparée quand même par plusieurs clics, un seul clic au départ, mais plusieurs clics depuis plusieurs jours, avec l'apport des médias aussi, qui a quand même claironné, annoncé cette manifestation.
Les médias ont suivi le mouvement.
De dire avec précision, si vous voulez, là on dit 280 000, le ministère de l'Intérieur, très bien, mais ça compte ceux qui y étaient et ça ne compte pas ceux qui n'y étaient pas, qui sont restés passifs et qui ont manifesté aussi quand même leur sympathie. Pour ceux qui sont allés dans un certain nombre de magasins, de grandes surfaces, etc., ils ont vu, y compris même à la caisse, des jeunes femmes avec des gilets jaunes et des gens qui manifestaient leur sympathie alors qu'ils étaient prêts à payer leurs courses et qui parlaient de cette manifestation. Donc 280 000 pour un compte précis ou des mécomptes, puisque là aussi encore je me répète, tout le monde n'a pas été compté dans cette affaire, c'est quand même un succès. C'est d'autant plus, si vous voulez, un succès qu'il y a 2000 points de rassemblement. 2000 points de rassemblement, ça veut dire que tout le territoire a été touché. Et a été même pas bloqué, au sens où le Premier ministre avait averti. Manifestation, oui, de blocage
non.
Complet, non. Ce qui diffère des bonnets rouges de 2013, dont les manifestations ont été circonscrites à la Bretagne.
Oui.
Là, c'est le territoire entier.
C'était organisé par le MEDEF, donc il y avait...
Et qui était organisé, voilà. C'était structuré,
MEDEF,
les bonnets rouges. C'était structuré.
Local.
Exactement. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense, je ne sais pas si... ceux qui sont là autour de nous et tous mes camarades qui ont participé à ces 5h30 de spécial aujourd'hui tirent la même conclusion, c'est que le président de la République, le chef du gouvernement, ne peuvent pas ne pas entendre ce message.
Avant...
C'est un message commun à la classe moyenne et à la classe populaire. Donc c'est difficile de rester sourd et surtout, et en même temps, je dirais, la technostructure de Bercy, elle aussi, doit ouvrir grande ses oreilles.
Avant qu'on regarde Laval, Charles Villeneuve, je voudrais qu'on regarde l'amont. Selon vous, Catherine Ney, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas anticipé cette colère? On a l'impression qu'ils n'ont rien vu venir.
C'est-à-dire qu'ils ont anticipé, ils entendaient, mais comme le président Macron l'a dit, c'est vrai que je ne me suis pas réconcilié
oui, avec les Français. Je n'ai pas réconcilié les Français avec la politique.
Avec l'élite et enfin avec les dirigeants. Et ça, il a dit qu'il en était affecté. Ça me touche profondément. Mais le président est sûr de changer la vie des gens par le travail. Donc il s'est dit, il faut en passer par là. Je fais des réformes et j'ai avec courage que les autres n'ont jamais fait. Il l'a dit quand même oui. De sa dernière interview. Et lui pense qu'il va avoir des résultats. C'est ce qu'il a d'ailleurs plaidé sur le.
J'ai mal posé la question, oui. Catherine Ney. Oui. Sa dernière interview, il savait qu'il allait avoir l'affaire des Gilets jaunes. Ce qui m'étonne, moi, c'est comment se fait-il qu'il n'ait rien vu venir il y a un mois, il y a trois semaines. Je me souviens du ministre de l'Intérieur, qui était Gérard Collomb, qui disait nous parlons avec arrogance, et il prêchait un peu dans le désert,
oui, Yves Saint-Omer. Je crois que vous êtes généreuse avec le président. Si l'image du président des riches lui colle à la peau, c'est qu'il y a une part de vérité à ça. Il est au milieu d'une classe qui dirige d'abord en connaissant les problèmes d'une élite, relativement. Donc c'est un premier problème.
Est-ce qu'on ne peut pas dire ça de tous les présidents précédents?
J'allais le dire. De facto, il est apparu comme extérieur au système pour bien des Français, parce qu'il n'était pas dans un parti politique traditionnel, et une partie importante de son succès s'appuie sur cela. Mais en même temps, on voit bien comment, au bout de quelques mois, finalement, on se coule dans une structure à la fois institutionnelle et de rôle qui est très traditionnelle. Et de facto, il est en train de vivre ce qu'ont vécu avant lui François Hollande et Nicolas Sarkozy.
Charles Villeneuve.
Et pour des raisons de fond.
Mais Charles Villeneuve. Il est au confluent, je pense que vous serez d'accord, de tous ceux qui n'ont pas fait grand-chose, de tous ceux qui ont essayé de faire quelque chose et qui finalement n'ont pas fait grand-chose aussi. Il est quand même à l'addition un peu de tous ses prédécesseurs.
Il faut dire qu'il a fait des réformes qui n'avaient pas été faites avant et que c'était très difficile de les expliquer.
Mais en même temps, quand on entend simplement des députés de La République En Marche, la façon dont ils parlent de leur rapport avec la direction du mouvement et avec le président, ils reçoivent les SMS le matin pour savoir quelle position prendre.
Voilà. Yves Saint-Omer, vous savez, la République des Godillots, je lisais déjà ça dans le Canard Enchaîné il y a 30 ans. C'était déjà le cas du temps de François Mitterrand, et ensuite de Jacques Chirac, ensuite de, je vais le faire dans l'ordre de Sarkozy, et ensuite de Hollande.
Évidemment, mais à l'époque, il y avait tout de même des partis qui avaient une autre implantation il y a 30 ans, il y a 50 ans, et qui, mine de rien, constituaient des éponges entre les décideurs et les citoyens.
Oui, mais vous avez bien vu que François Hollande a échoué parce qu'il le dit aujourd'hui, c'était les frondeurs qui âgés continuent, mettaient des entraves contre sa politique. Et là, Emmanuel Macron, je veux dire, ce qu'il demande à sa majorité, parce qu'il a une majorité, c'est justement d'éviter que les frondeurs prennent trop de... Enfin, empêchent ses réformes.
Le mouvement des Gilets jaunes est-il une nouvelle manifestation du ras-le-bol fiscal ou est-ce que ça va beaucoup plus loin que cela? On en parle avec Catherine Ney, Charles Villeneuve, Yves Saint-Omer. On est en spécial depuis tout à l'heure, 16h sur Europe 1. On est heureux d'y être et on vous dit à tout de suite.
19h40, Europe 1 en édition spéciale en raison de cette journée de mobilisation des Gilets jaunes. Jusqu'à 20h, on débat avec vous, Philippe Vandel et vos invités. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou en composant le 3921, le standard d'Europe 1, 50 centimes d'euros la minute. Intervenez en direct sur notre antenne. Dites-nous comment vous avez vécu cette journée de contestation. Avez-vous soutenu le mouvement ou au contraire, l'avez-vous subi? On vous attend tout de suite au 3921.
Avec nous, Catherine Ney et Charles Villeneuve d'Europe 1. Avec nous, Yves Saint-Omer. Avec nous et avec vous. Vous êtes sociologue, professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 8 Saint-Denis. Est-ce que, je le disais, je posais la question, le mouvement des Gilets jaunes est selon vous une nouvelle manifestation du ras-le-bol fiscal ou est-ce que cela va beaucoup plus loin que ça?
Je crois que ça va beaucoup plus loin que ça. On a des choses structurelles qui sont en train de se jouer. Pour les comprendre, on peut prendre un parallèle. Aux dernières élections américaines, là, du midterm, il y a 5 États qui ont voté républicain et qui ont en même temps, à travers des référendums, instauré soit le salaire minimum, soit l'extension de la couverture maladie. Et donc, ça paraît contradictoire. Et là, de la même manière, on a des gens qui protestent contre les taxes et en même temps, parce que c'est tout de même d'abord des classes populaires, des fractions inférieures des classes moyennes, qui vivent dans les zones périurbaines ou rurales, qui dépendent beaucoup des services publics. Mais il y a tout de même cette idée, notre condition sociale et économique en général se dégrade, les services publics se dégradent également, et il y a cette protestation de fond-là qui s'exprime d'une façon paradoxale.
Mais est-ce que ce n'est pas le hiatus et l'absurdité que dénonçait le président Macron, à savoir que les gens voudraient payer moins de taxes, avoir plus de services, et c'est soit l'un, soit l'autre?
Oui, mais qui paye les taxes et à qui vont les services? Le problème de la politique menée depuis bien des années, c'est qu'elle a augmenté les inégalités en France.
Catherine
Ney. Non, mais ce mouvement, c'est la coagulation de tous les ressentiments d'une France périurbaine et rurale qui s'estime, d'ailleurs, à juste titre, être délaissée par l'État, mais depuis longtemps. Hein. Mais seulement, ça continue. Vous voyez. Et ils avaient espéré qu'avec l'arrivée de Macron, qui avait fait une campagne, vous savez, quand on demandait à Emmanuel Macron pendant la campagne, quel est votre programme, il dit, à moi, ce sont mes marcheurs qui voient la société civile, et après, il y aura un retour, et je ferai une politique...
C'était le pays réel.
Donc, ceux qui ont voté pour lui espéraient peut-être qu'il y ait, comme il disait, de la bienveillance à leur regard, vous voyez, à leur égard. C'était son grand mot. Mais aujourd'hui, dans cette coagulation, il y a à la fois le ras-le-bol de tout augmente, l'électricité, le gaz, les assurances, le loyer. Et puis, quand même, il y a, pour les propriétaires de voitures diesel, il y a quand même, c'est la double peine. D'abord parce qu'on les a encouragés à acheter ces voitures depuis très longtemps. C'est l'État qui était derrière.
Il y a encore 10 ans, il y avait même une prime diesel qui existait encore il y a 10 ans.
On n'était pas un bon français si on n'achetait pas une voiture diesel, et maintenant on est montré du doigt, on est vraiment le pollueur et le salaud qui doit changer sa voiture tout de suite. On donne une prime de 4 000 euros, mais la voiture vaut 20 000 euros. Donc là, les gens, ils ne comprennent pas. Ça, voilà.
Charles Villeneuve.
Si vous voulez, les taxes sur les carburants ont servi de révélateur à un pouvoir d'achat qui va diminuant par rapport à cette classe populaire et cette classe moyenne. Et ça, c'est intéressant de rappeler que tout à l'heure, le directeur général adjoint de l'IFOP, Frédéric Dabi, l'a rappelé avec précision, et que eux-mêmes, analystes politiques, l'ont perçu déjà depuis plusieurs semaines. Arrive justement ces taxes-là, qui vont encore augmenter normalement en janvier de 5%, aussi bien sur le diesel que sur l'essence proprement dite.
Et donc ça, les cours du brut baissent.
Bon, et ça a servi de révélateur à cette insupportabilité de ces deux classes. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui face, si vous voulez, à une mobilisation, une sorte de jacquerie électronique, comme le disait Nicolas Bavrez sur cette antenne jeudi chez Sonia Mabrouk. Cette mobilisation inaugure une nouvelle, si vous voulez, un nouveau déclic, si j'ose dire, de rassemblement spontané et qui a quand même atteint pratiquement 300 000 personnes ce soir, peut-être plus, on le verra. Et dès lors, le président de la République ne peut pas ne pas entendre. Le chef du gouvernement, idem.
C'est pas faux d'avoir été prévenu. Moi, je me souviens que cet été, je lisais des papiers qui racontaient qu'il y avait énormément de remontées de députés La République En Marche qui avertissaient l'Élysée et Matignon sur le thème « Attention avec les radars, attention avec les 80 km/h, ça ne passe pas sur les routes nationales, attention avec le nouveau contrôle technique qui coûte de plus en plus cher. » Le mécontentement augmente et ça va exploser et j'ai l'impression qu'on y est.
Oui, effectivement, on y est. Le problème, c'est que tout le monde sait bien qu'à terme, le diesel est condamné. On ne peut pas continuer à avoir des émissions de particules fines qui font des milliers de morts par an. Et donc, voilà. Et en même temps, comme vous l'avez dit, c'est l'État lui-même qui, pendant des années et des années, a poussé l'industrie française et les citoyens français à s'équiper en diesel. Et donc, de ce point de vue-là, le tournant est non seulement brusque, mais il pèse de façon disproportionnée sur les gens qui sont plus loin des centres, de là où ils travaillent, qui sait, c'est les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter en centre-ville, et donc les classes populaires ou les classes moyennes. L'écologie doit en même temps être populaire si elle veut s'imposer durablement.
Ah bah tiens, justement, j'ai quelque chose d'impopulaire à soumettre à votre sagacité. Le Premier ministre, Édouard Philippe, persiste et signe au moment où il faudrait calmer l'opinion. Là, en ce moment, il a annoncé mercredi matin des mesures d'aide, mais également que les chaudières au fioul vont être interdites dans 10 ans et qu'il faudra les changer. Ça concerne des millions de familles et je ne comprends pas le geste politique d'annoncer pareille chose avec pareille tourmente.
Et surtout trois jours avant la manifestation.
Exactement.
Oui, ça, ben oui, c'est incompréhensible. Et là, déjà, il y a des gens qui disent, eh bien non, moi j'ai une chaudière qui marche très bien, je la changerai pas, quoi. Voilà. Donc c'est une petite provocation. Là,
vous le voyez comme une provocation.
Un petit peu. Même si tous les gens qui ont une chaudière, d'abord ça coûte très cher,
se disent,
faut aussi, on espère que d'ici 10 ans, on proposera des solutions de chauffage qui seront moins onéreuses, qui seront plus adaptées. Mais on se dit, il y a 10 ans, peut-être que dans 10 ans on le fera. Voilà. Mais c'est vrai que ça pouvait attendre. On pouvait attendre la fin de la manif. Mais voilà.
Si vous voulez, là, il faut y voir aussi une préoccupation politique à moyen terme, donc pour les prochaines élections. Il a très bien vu et perçu le Premier ministre. Je ne dirais pas que c'est de la provocation. Je pense qu'il est dans la logique, justement, de la taxe énergétique, pour la transition énergétique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ces taxes sur les essences, le diesel et l'essence, sont apparues et sont imposées. Et il se dit que l'écologie est de plus en plus populaire dans une partie de l'électorat, et notamment le sien, idem, notamment des classes moyennes. Et partant de là, il veut montrer une fermeté par rapport à cette ligne qui a été choisie. Et chez les jeunes, bien sûr, mais les classes moyennes, les jeunes en font partie.
Si vous
avez
suivi, pour conclure, il veut rassurer sa base électorale.
Sinon, sa base électorale, éviter une hémorragie de sa base électorale.
Mais je crois qu'il y croit aussi. Justement, il pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire et qu'il faut se lancer dans ce...
D'un mot, Yves Saint-Omer, pour conclure, et après on parlera d'un autre sujet.
Il y croit peut-être, mais avec un paradoxe. La France est en retard sur ses objectifs de réduction de production de CO2 et de tournant énergétique.
Vous savez quoi ? Tous les pays sont en retard, et nous aussi un tout petit peu. Une pause et on se retrouve tout de suite pour parler des Gilets jaunes.
19h49, suite et fin de notre débat. Nous sommes en édition spéciale Gilets jaunes avec vous, Philippe Vandel, et vos invités. Deux grandes voix d'Europe 1, Catherine Ney, Charles Villeneuve. Et puis avec Yves Saint-Omer, sociologue et professeur en sciences politiques à Paris 8 Saint-Denis.
Justement, je me tourne vers vous, Yves Saint-Omer. Ces mouvements de Gilets jaunes ne sont pas constitués de manière classique comme autrefois les candidats ou les partis politiques. C'est totalement informel, c'est ni vertical ni horizontal. J'ai vu une image qui m'a frappé, ils ne se connaissent même pas entre eux. J'ai vu une image, il y a un type qui arrive ce matin, gilet jaune, à une manifestation. Non seulement il ne savait pas ce qu'il devait faire, mais il ne savait pas qui était le meneur, il ne savait pas à qui s'adresser pour savoir ce qu'il devait faire. Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est un changement, un tournant dans la composition politique de la France ?
C'est un pas de plus dans un tournant de fond. C'est pas le premier. Les mobilisations contre le contrat première embauche, il y a quelques années, en était un signe. Nuit debout, il y a 2 ans également.
Et c'était porté par les partis de gauche quand même.
C'était porté par les partis de gauche.
Au départ, ce fut spontané, nuit debout,
sûr.
Et ensuite ça a été...
Bien sûr, nous verrons ce que ça donne dans quelques temps si le mouvement continue. Mais je pense que ça marque une inflexion supplémentaire. Les mouvements sociaux aujourd'hui sont à l'image des réseaux sociaux, à l'image d'une autre socialité. Et les partis politiques peuvent essayer de les chevaucher, de les instrumentaliser. Mais sur le fond, ces mouvements-là leur échappent très largement, et pas simplement en France. C'est un mouvement, une lame de fond qui transforme la façon de faire de la politique et de mobiliser dans la rue sur des questions
sociales. Une autre image, avant de vous donner la parole, Catherine Ney, autre image qui m'a amusé ce matin, parce qu'on dit que c'est un mouvement Facebook BFM. Il y avait une équipe de télé qui se rendait sur une manifestation et ils ne savaient même pas qui il fallait interviewer, ils ne savaient pas non plus qui était le meneur. Catherine Ney.
Oui, mais là, c'est un succès. Mais est-ce que demain, tous ces gens qui ont manifesté, comment ils vont se dire, comment on entretient la flamme ? Comment on fait ? Comment on se retrouve ? Est-ce qu'il ne faut pas une organisation ? Est-ce qu'il ne faut pas créer des permanences ? Ou alors comme ça, on se retrouve un jour sans se connaître ?
Comment on fait pour exister demain et
pour être entendu ?
Pour avoir eu des gilets jaunes ici pendant ces 2 heures de direct et des auditeurs d'Europe 1 qui appelaient au 3921, ils disaient « Nous, on continue tant que le gouvernement ne cède pas ». Mais aucunement, ils n'ont parlé d'une quelconque organisation.
Ben oui,
Charles Villeneuve. Moi, j'apporterai une nuance.
Allez-y.
Plusieurs préfets vous signalent, notamment sur les sites de la France du Sud en Provence-Côte d'Azur, que les militants du Front National étaient assez animateurs de pas mal de points de blocage aussi. Il faut un tout petit peu nuancer justement cette affaire de
gens
sortis, inconnus de la foule.
Non, mais etc. C'est là où il y a eu le plus de monde, c'est dans les, par exemple dans les Hauts-de-France, c'est dans les villes où on vote Front National. Alors on ne peut pas en dire que c'est le Front National qui était derrière.
Non, mais c'est aussi du déclassement. Je dis que des préfets, notamment dans le Sud, et pas seulement dans le Sud, mais plusieurs élus, ont identifié un certain nombre de militants. Je ne dis pas tout à fait la même chose que ce que tu dis.
Et autre caractéristique sociologique sur laquelle j'aimerais avoir votre expertise, Yves Saint-Omer, c'est que contrairement à Nuit Debout dont vous parliez, on a vu beaucoup, là, pour les Gilets jaunes, de retraités
sur les images, des gens qui habituellement manifestent peu. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je crois qu'il y a un sentiment de déclin, de décadence, de peur pour ce que vont faire leurs enfants, leurs petits-enfants, comment ils vont vivre. La CSG, effectivement. Donc voilà, il n'est pas très étonnant que les retraités soient là relativement présents.
Je veux dire pourquoi ça m'étonne. Parce qu'un jour, un secrétaire d'État m'a dit, sous le sceau du secret, je ne trahirai pas son nom, mais il m'a dit, il n'y a pas de problème quand on tape sur les retraités, ce n'est pas eux qui vont aller bloquer les rues et finir les soirées avec des casques et des battes de baseball. Donc finalement, non, ils sont descendus dans la rue.
Oui, peut-être pas avec des casques et des battes de baseball, mais ils sont descendus dans la rue.
Moi, Catherine Ney. Ce qui m'a étonné d'ailleurs, c'est qu'ils chantaient la Marseillaise dans beaucoup de manifestations. Vous voyez, il n'y a eu aucun pillage, il n'y a pas eu vraiment, il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de... Voyez, et là, le président a dit, ben, son nouveau mot, c'est la considération. Donc, c'est des gens qui se sont bien tenus. Il y avait quand même beaucoup de manifestations, il y avait de la colère. Et, bon, mais il faut leur répondre.
Pardon, je ne vais pas défendre tous les manifestants, mais il y a beaucoup de manifestations où les pillages étaient l'œuvre de bandes de pilleurs, des black blocs ou autres. Ce n'étaient pas toujours les manifestants qui allaient casser les vitrines les distributeurs bancaires.
Oui, ça c'est vrai, mais là, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de violence.
Exactement. Voilà. Charles Villeneuve.
Mais écoutez, moi, je voudrais juste souligner quelque chose, et notamment l'antenne d'Europe 1. Au total, si nous avons observé la succession de toutes ces spéciales, nous avons passé 5h30 en spécial, d'émissions spéciales sur Europe 1 aujourd'hui. Et nous devons souligner aussi l'apport des auditeurs d'Europe 1, qui ont été, grâce à eux, assez formidables, qui ont répondu très nombreux. Et on a beaucoup appris grâce à eux, justement. Hein, vous en êtes témoin, n'est-ce pas, mademoiselle
Marlène, oui, tout à fait. Et, je suis présente depuis 12h30.
Si vous voulez, quand je dis on a beaucoup compris ce qui se joue, notamment dans la classe moyenne et populaire, qui aujourd'hui s'est quand même tout de même mobilisée. Voilà, je voudrais quand même les remercier.
Voilà, et on a entendu ici, sur Europe, ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, les gens qui en souffraient et les gens qui étaient les instigateurs du mouvement. Merci, vous vouliez le mot de la fin, Catherine Ney ?
Ben non, maintenant, on dit « et maintenant ».
Et maintenant, que va-t-il se passer ? Bonne question. Est-ce que le gouvernement va céder ?
Ben au moins, j'espère dialoguer, mais il faut trouver avec qui dialoguer. C'est ça le problème. Parce que quand il y a des manifestations comme ça, on voit sur le terrain, il y a toujours un leader, une voix plus forte, j'irais même une grande gueule. Là, mais j'ai pas suivi assez le terrain pour eux. Enfin, j'ai vu ce que BFM nous donnait. Il faut bien dire ce qui est. J'ai fait comme beaucoup de gens. Et donc, qui va sortir comme individualité qui pourrait éventuellement incarner ce mouvement.
C'est comme si on était en mai 68 et qu'on cherchait son Cohn-Bendit.
Oui, mais ça, non, la comparaison n'est pas raison.
Encore une grande voix d'Europe 1. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Yves Saint-Omer, sociologue. Merci Charles Villeneuve. Merci Catherine Ney. Et merci à vous tous qui nous écoutez. C'est Médiamétrie qui le dit, c'est pas moi. Toujours plus nombreux le samedi et le dimanche. Merci beaucoup à toutes et tous. Et dans un instant sur Europe, vous allez retrouver Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Philippe, nous aussi, toujours plus nombreux.
Mais
le
oui.
Samedi et le dimanche, on est ravis évidemment de vous retrouver.
Et quelle couleur vos maillots ce soir, jaune ?
Bah jaune, bleu et surtout bleu Europe 1. Vous voyez, c'est ça qui est important.
Non, je voulais dire, c'est
aussi
quoi votre
par rapport à l'équipe de France.
Oui, non, vous allez me faire du mal. Heureusement qu'ils ont joué en blanc, j'avais le moral à zéro hier soir à 23h.
La défaite de 1-0, on y revient, on se demande si Didier Deschamps va se remettre en question et on va essayer de se poser les bonnes questions pour l'avenir des champions du monde qui ont perdu leur premier match après 15 rencontres.
Merci beaucoup Lionel. Nous on se retrouve demain à 18h. Bonne soirée à tous sur Europe 1.